Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à tous mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue dans l'émission Au bout du foot. C'est parti, hein. Maxence, comment ça va?
Salut Alain, ça va et toi?
Ça va, super. Hein. Et toi aussi, super?
Super, super.
Très bonne semaine.
J'irai pas jusque là, okay. Mais si, très bonne semaine, week-end moyen, pour ne pas dire catastrophique. Mais non, ça va, on arrive sur une belle période foot là avec les 8e de Ligue des Champions, là, le printemps européen, donc c'est ce qu'on veut.
C'est exactement ça. On a vu les équipes monter en puissance hein, en deuxième partie de saison et les joueurs aussi. C'est tout à l'honneur des clubs et franchement, on espère voir du beau spectacle en tout cas pour ces huitièmes de Ligue des Champions et pour nos championnats aussi. Comment ça va Alexandre?
Ça va super et toi?
Ça va super. Bonne semaine de foot?
Ouais, bonne semaine de foot et puis bah, hâte d'en parler du tirage et tout ça et donc ça va être sympa.
C'est parti. Comment ça va Salson?
Bah ça va nickel et toi?
Ah c'est sûr que t'as passé une bonne semaine.
Magnifique.
Ah ouais.
Pour l'instant on va pas se plaindre, on va en parler. Hein.
Même le vendredi t'as passé une bonne semaine, c'était un bon jour?
Ouais nickel.
Lors du tirage il n'y a pas eu de soucis?
Ouais bon après de toute façon c'était soit l'un soit l'autre. Et de toute façon les deux équipes seront compliquées. Dans tous les cas c'était compliqué mais bon ça va être un beau match. Un beau match, il va y avoir pas mal de buts je pense et... On va voir ce que ça va donner. On va voir le PSG, ce que ça donne vraiment maintenant.
Merci, Salson. Y a Lucas qui va nous rejoindre très bientôt. Du coup, je voulais... bien évidemment, on va commencer avec la Ligue 1. Hein. La Ligue 1, bien évidemment, c'est... Marseille. On va parler de Marseille.
C'est une bonne définition de la Ligue 1, ouais.
Non, si tu veux. C'est Marseille. En tout cas, avec ce qui se passe, là, dernièrement, avec surtout les décisions arbitrales, on a pu voir... le pétage de plomb du président de l'OM, Pablo Longoria, justifié ou pas. En tout cas, on va donner nos avis. Alexandre, on va aussi parler du Paris Saint-Germain. C'est une équipe que tu aimes beaucoup aussi, je suppose.
Ah ouais, non, mais franchement, en ce moment, il me régale. Je vous avais dit d'être patient avec Luis Enrique.
En ce moment, en tout cas, c'est du beau football et c'est des résultats aussi qu'on a là. Et Salson, bien évidemment, on va parler aussi du classement. Hein, le Paris Saint-Germain qui s'envole très loin, qui laisse ses concurrents derrière. Et franchement, on pense que c'est bouclé. On le savait déjà un peu depuis un certain moment. Mais là, je pense, même si ça ne l'est pas encore officiellement, mais là, avec Marseille qui perd des points dans la course au titre, ça va être très, très difficile pour Marseille de retrouver déjà juste de conserver sa place de dauphin, déjà juste ça, je pense que ça va être compliqué. Ensuite, on peut y revenir. Maxence, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de cette journée de Ligue 1 déjà, avec Auxerre qui s'impose comme à l'aller 3-0 face à Marseille, et bien évidemment le Paris Saint-Germain qui s'impose aussi 3-2 avec une équipe de Lyon à double vitesse qui a su marquer et jouer un peu plus libéré en deuxième période. Et bien évidemment, Nice qui ont gagné aussi face à Montpellier et qui reviennent à 3 points de Marseille. En une journée, là, tout peut changer. En tout cas, le classement du top 2 au top 4, 5, 6 même, tout peut changer. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça?
Alors moi, je vais retenir 3 matchs sur le week-end. Du coup, mes éléments marquants. Il y a le PSG qui bat Lyon. Et pour moi, c'était le dernier écueil du PSG en Ligue 1 avant la fin de saison. Et le dernier match où clairement, il pouvait être battu, même si j'y croyais pas énormément. Hein. Mais voilà, là, on se dirige vers une saison invaincue. Et pour moi, en Ligue 1. Et pour moi, le PSG, là, c'est peut-être le meilleur PSG de l'ère Qatari. Je vais peut-être dire une dinguerie, mais pour moi, collectivement, j'ai jamais eu cette impression-là. En regardant le PSG jouer, en ayant l'impression que le danger peut venir de partout. Et quand l'année dernière, on disait que la présence de Mbappé, certes, il mettait 40 buts, mais ce n'était pas forcément positif pour le collectif, ben on s'en rend encore plus compte aujourd'hui parce que le danger, il vient de partout. Il vient de Gonçalo Ramos quand il rentre, il vient des latéraux, il vient de Dembélé, il vient de Barcola, il vient de Gvara. Donc c'est hyper complet, c'est de bon augure. Moi, je pense que Liverpool-PSG, enfin, Si on m'avait dit ça il y a 3 mois, j'aurais dit c'est du 95-5. Aujourd'hui, je pense que c'est du 55-45. Allez, mais le PSG aura sa carte à jouer. Deuxième match qui m'a intéressé et qui m'a agréablement surpris. Je me suis posé devant sans grand intérêt. Et c'est le Saint-Étienne-Angers. Avec Saint-Étienne qui est mené 2-0 au bout de 20 minutes. Et après la défaite 6-1 contre l'OM la semaine d'avant, on se dit ils vont couler, c'est terminé. Et finalement, ils ont le caractère pour revenir, mener 3-2 et se faire égaliser à la fin sur un pénalty. Mais je pense que c'est bien pour la lutte pour le maintien. Et puis
ils ont concédé deux pénaltys,
dont un dans le temps additionnel.
Et un doublé de Cardona qui leur a permis.
Mais donc, c'est un beau sursaut d'orgueil, on va dire, pour cette équipe-là. Donc à revoir. Et puis, on a vu une équipe qui correspond au principe d'Orneland, qui lâche pas son idée de jeu. Et c'est plutôt bien. J'aime bien les coachs qui se renient pas devant les mauvais résultats. Et enfin, l'Olympique de Marseille. Du coup, la défaite contre Auxerre, qui est décidément la bête noire sur cette saison. Dans un match qui est frustrant sur la première partie de rencontre, parce qu'il est globalement très maîtrisé par l'OM. 80% de possession de balle sur la première mi-temps. Gaëtan Perrin qui met un but extraordinaire. D'ailleurs, il fait une très belle saison à mettre au réveil. Gaëtan Perrin, les deux font une très belle saison. Mais pour moi, Marseille est en maîtrise sur la possession, sur la partie de terrain, mais c'était pas assez efficace, il n'y avait pas assez de tranchant, il manquait quelque chose. Et en une action au Auxerre, c'est un but. Et derrière, tu te mets un peu le feu tout seul avec une infériorité numérique qui est très très mal gérée. Et on a vu les Auxerrois qui partaient en compte, ça aurait pu faire 3, 4, 5. Donc c'est un match à oublier pour l'OM, avec des cadres qui sont passés à travers. Je pense à Bennacer, je pense à Rabiot, je pense à Greenwood. Je pense aussi à Balerdi, qu'on est toujours assez prompt à critiquer, mais quand il n'est pas là, on voit que son rôle est très ingrat. Le rôle du défenseur central, du libéro dans le système de Zerbi, c'est vraiment un rôle très ingrat, c'est celui qui touche le plus de ballons. Donc quand il n'est pas là, on voit un petit peu ce que ça donne. Quant à la réaction de Longoria, pour moi, il a décrédibilisé le club sur sa réaction. Qu'il soit frustré par l'accumulation de situations, pourquoi pas. Après, pour moi, il y a des matchs où l'OM a été bien plus lésé par l'arbitrage que sur ce match-là, dans lequel je vois rien de vraiment choquant. Et je pense qu'il décrédibilise l'OM. Et comme on le disait la semaine dernière pour le Real, à force de crier au complot, bah, les gens ne t'écoutent plus, en fait. Et là, c'est ce qui est en train de se passer pour l'OM. C'est que une fois, deux fois, trois fois, certes, c'était peut-être justifié. Mais là, quand tu cries à chaque fois et à chaque fois en allant plus loin dans tes propos, ça apportera rien de bon. Les prochains arbitres qui vont aller au Vélodrome, ils vont pas être à mon avis très sympas avec l'OM, et à raison. Voilà, je vois pas ce qu'il a, enfin je comprends ce qu'il a vécu, mais je vois pas ce qu'il a, en tant que président de l'OM, je vois pas ce qu'il a cherché à provoquer comme réaction avec ce pétage de câble. Et dernier petit tacle pour la LFP, parce que mettre Jérémy Stinat comme arbitre sur ce match là sachant ce qui s'était passé 3 semaines avant et l'expulsion de Benatia, où il prend 3 mois ferme alors que les temps prend 2 semaines ou 3 semaines, je crois. C'était dès le départ, on savait que ça allait être un bourbier. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, ça allait être un bourbier. S'il avait sifflé pour l'OM, ça aurait été il a subi les pressions de Longoria et tout. S'il siffle contre l'OM, c'est il nous en veut, etc. Donc la LFP a pas fait bien son job là-dessus. Et voilà, Longoria est fautif.
Merci Maxence pour ce long monologue, mais on a compris au moins tous tes points de vue. Il y a Lucas qui vient de nous rejoindre aussi. Comment ça va, Lucas?
Ça va et toi, Ladj?
Ça va super, ouais. Du coup, Lucas, directement dans le vif du sujet, on parlait de la Ligue 1, bien évidemment du Paris Saint-Germain qui se sont imposés au stade du Groupama. Aussi, il y avait Nice qui revient à 3 points de Marseille en s'imposant 2-0 face à Montpellier. Nantes qui sort de leur travers et qui corrige un peu, lance 3-1 à domicile. Et on voit Lille s'imposer face à Monaco 2-1. Rennes pour Habib Bey encore, qui enchaîne, c'est son 4e match, et ça fait 3 victoires en 4 matchs, qui donne un bol d'air frais énorme au Rennais, et franchement, ils sont pas loin de la première partie de tableau, quoi. Voilà, ils sont 10e, ça se joue à 4 points, quoi.
Ouais, je pense qu'ils vont revenir, Rennes, je me fais pas trop de soucis. On avait dit, ils ont eu aussi
un mercato compliqué où tout le monde était un petit peu partant, c'était un petit peu compliqué de savoir dans quelle direction le club allait. Je pense que l'arrivée de Bay, ça a remis un peu les choses dans l'ordre. Donc je les vois faire une fin de saison assez correcte, mais ce sera assez difficile de rejoindre ceux qui sont au-dessus, parce que mine de rien, ça avance quand même, même s'il y a des clubs comme Lens qui marquent un petit peu le pas. Je crois qu'il y a ça avance là-haut. Et je pense que Rennes, ils ont peut-être laissé passer leur train pour l'Europe, et même une belle fin de saison, ça m'étonnerait de les voir dans le top 5. Ceci étant dit, c'est Nice, moi, qui m'a fait qui m'a impressionné, entre guillemets, avec ses derniers résultats. Puisque même s'ils battent Montpellier, qui est dernier, c'est pas forcément une grosse performance. Le fait qu'ils arrivent à enchaîner, alors qu'ils sont super irréguliers depuis le début de saison, ça montre qu'ils sont vraiment sur quelque chose. Ils ont été catastrophiques en Europa League, et là, ils ont l'air déterminés à bien finir la saison. Donc moi, je les vois continuer, je les vois bien embêter Lille, notamment, et Monaco, pour la course au podium.
Même Marseille, puisqu'ils sont à 3 points de Marseille.
Marseille, malgré la contre-performance d'hier.
Non, mais ils sont à 3 points de Marseille, ça oui, c'est l'effet. Un match demain.
Bien sûr, mais vu la dynamique de Marseille, si on oublie ce qui s'est passé hier, je pense que Marseille sera deuxième assez aisément. Je vois pas de club au niveau de Marseille à part Paris.
Moi,
je me pose
c'est pas qu'aujourd'hui, hein, moi je me pose des questions, et depuis un certain temps, hein, depuis le début, j'ai dit est-ce que Marseille vont finir dans le top 2 déjà, ouais, dans un premier temps. Je l'ai dit, et ça fait très longtemps. Et là, je vois que Marseille, mine de rien, ils sont à 3 points. Demain, même si tu m'annonces que c'est la dernière journée de Ligue 1, ils perdent le match, en sachant qu'ils ont le Paris Saint-Germain à jouer, ils ont Lille à jouer, ils ont Monaco à jouer, ils ont encore des grosses équipes à jouer. Excuse-moi, mais pour moi, il n'y a rien qui sécurise la place de l'OM en tant que dauphin. Rien
après,
du
top
tout.
2, top 3, c'est à peu près la même chose avec la réforme Ligue des Champions. T'y es directement. Et oui. Puis, Nice aussi a des gros matchs à jouer. Hein. Ils vont au Parc, ils vont à Rennes, ils vont à Monaco, ils reçoivent Lyon. Enfin, ils ont encore plein de gros matchs aussi. Hein.
Oui, bien évidemment. Mais en gros, je parle de un peu de tout. Quoi. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, Alexandre, de ces performances et aussi du Paris Saint-Germain qui se sont imposés à Lyon 3-2 avec un Ousmane Dembélé encore buteur?
Ah bah justement, moi je voulais qu'on en parle du Paris Saint-Germain et de ce match. Franchement, je sais pas si c'est le meilleur Paris Saint-Germain depuis le début de l'ère qatarie, parce que bon, il y a toujours, si on parle d'un collectif, on a toujours l'image de l'équipe de Laurent Blanc qui était...
Non, c'est au-dessus là, Laurent Blanc se faisait chier quand même, faut arrêter.
T'es dur.
Laurent Blanc ça dominait, ça gagnait 3-4-0.
Laurent Blanc se faisait chier. Laurent Blanc se faisait chier, quand t'avais Thiago Motta, Verratti, Matuidi,
ça n'indique en rien, ça n'indique en rien le jeu proposé. Le jeu proposé sous Blanc, il était dominant, tactiquement c'était très au point. Mais Blanc, ça n'a jamais été flamboyant comme ce qu'on voit maintenant. Au niveau de l'impression visuelle.
Quoi?
Non, je suis d'accord.
Mais au niveau de l'impression visuelle.
Peut-être en Ligue 1.
Je veux dire, moi.
Peut-être en Ligue 1, mais est-ce que sur la scène européenne, c'était aussi flamboyant?
Mais c'est ça.
En Ligue des Champions, c'est juste humilié,
c'est juste
sous
à la
Laurent
limite
Blanc.
Que
c'est
fait.
Uniquement des humiliations sous Laurent Blanc, vous me parlez de quoi?
Mais parce que. Mais parce que
si, quand on gagne 3
points là-bas, contre City. C'est pas contre Barça, il fait 2-2.
Si, il y a eu des très bons matchs de Barcelone.
Ah, vous faites éliminer sur ça?
Non, c'est Ancelotti, ça.
C'est la saison où il perd en quart contre le Barça.
En se prenant fessé aller-retour.
Il bat le Barça.
Mais en élimination directe, il faut la MSN. Oui, mais en élimination directe, ils se font manger aller-retour sans qu'il y ait une once de suspense. Et l'année suivante, ils se font prendre contre Chelsea, alors qu'ils gagnent 3-1 à l'aller.
C'est contre City. Un petit Chelsea en plus. Hein.
Un petit Chelsea.
C'est contre City, la vraie désillusion.
Et City, non, mais ça fait
parce qu'il y a un carton rouge.
Non, il y en a au moins deux des illusions. Je suis désolé.
Ce que je vais te dire, c'est que.
Mais vas-y, reste sur le sujet, vas-y, Alexandre.
Si on reste sur le sujet, franchement, collectivement, Laurent Blanc, c'était du haut niveau. Il y avait quand même des grosses séquences, il y avait des gros joueurs, il y avait des. Et tous les matchs, t'avais des buts flamboyants quasiment. En Ligue 1, il n'y avait pas de suspense. Je crois que c'était la dernière année de Laurent Blanc où ils mettent un plus 30 à Lyon qui est deuxième ou un truc comme ça. Ou un plus 20. En tout cas, il y avait un énorme écart entre le premier et le deuxième parce que Paris marquait des 100 buts en Ligue 1 à ce moment-là. Enfin, c'était quand même c'était incroyable. Mais bon, ça, c'est du passé. En tout cas, là, si on se concentre sur cette équipe maintenant, bah, je vous avais dit depuis le début, et je le dis à tout le monde, à mes amis, etc., il faut toujours laisser du temps à l'entraîneur. Si à la fin de la saison, il n'y avait aucun progrès, là, on aurait pu commencer à se poser des questions, il n'y a pas de souci. Mais quand on voit d'où vient le PSG et on voit actuellement les progrès des joueurs, etc., bah, je suis désolé, là, on pouvait critiquer Luis Enrique à un moment donné, mais là, il faut quand même lui accorder énormément de crédit et lui tirer notre chapeau. Parce que là, ce qu'on voit actuellement, c'est une équipe
on
en
plein... On n'est pas au bout de la saison, quand même. Moi, je pense qu'il faut attendre. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Là, pour moi, on doit arriver à la fin.
Mais comme
déjà,
toujours.
Parce que si à la fin... ils sortent en quart de finale là contre le Barça et ils gagnent la Ligue 1 le truc. Est-ce que ça sera quand
alors,
même un
vu,
bon
ça dépend de l'image que tu
vois. Ça voilà.
C'est pour ça que je suis pas d'accord parce que je préfère qu'on laisse un t-
Mais non, mais là, on peut pas juger que sur le résultat.
Voilà. Il y a beaucoup de supporters parisiens autour de la table.
Parce que regarde, regarde le résultat. Laurent Blanc, on est en train de limite de remettre en question ce qu'il a fait. Alors que
regarde.
À ce moment-là, il y avait.
Non, regarde, t'as vu comment j'ai parlé de Laurent Blanc.
Non,
je parle pas de Laurent Blanc.
Je parle de l'écart qui a remis un peu en cause à cause des résultats.
Les supporters parisiens, quand tu leur demandes, ils. Ok, Laurent Blanc, il a fait une dinguerie, 3-5-2, Manchester City, etc. Mais à chaque fois, tu demandes aux supporters parisiens ces dernières années, le meilleur collectif.
C'est Laurent Blanc.
C'est le collectif de Laurent Blanc.
Bah,
là, tu demandes ces dernières années.
L'équipe de Unai Emery qui, avant la remontada, elle est exceptionnelle.
Arrêtez, parce que.
Même à la remontada.
4-0 au parc, au Barça, ça n'a jamais été si fort que ça.
Même à la remontada. Excuse-moi, même à la
remontada. Mais cette période-là, je veux dire. Avant qu'il y ait le.
Vous
ne
pouvez pas dire ça, parce que Unai Emery, quand tu réfléchis.
On parle en termes de jeu,
Quand tu penses à Unai Emery,
tu mets une leçon au Barça de Messi, de Neymar.
Ok, mais quand tu penses à Unai Emery, tu penses à quoi? Bah, tu penses à la remontada et tu penses à Manchester United.
Mais comme tu viens de dire, quand je pense à Laurent Blanc, je pense à l'élimination honteuse
contre
Chelsea.
Quand tu penses à Laurent Blanc, tu penses à Lavezzi, tu penses à Lucas,
jamais de la vie.
Mais peu importe, en tout cas, juste
il y a un peu de nostalgie, je crois, qui vous porte, et Laurent Blanc, vous avez du mal à regarder son bilan.
Il n'y a pas de nostalgie, c'est juste quand tu regardes tout l'historique du Paris Saint-Germain depuis Laurent Blanc. Et la meilleure période, c'était celle de Laurent Blanc. Tu
vois. Mais moi, en tant que Marseillais, c'est
les meilleurs résultats.
Oui, mais il y avait tellement de trucs extrasportifs, il y avait tellement de trucs qui venaient polluer Paris, que la période, on va dire, entre guillemets, la plus saine, où l'équipe c'était la plus insouciante, avec des talents qui éclosaient, c'était à l'époque de Laurent Blanc.
Ouais, c'est l'époque où t'as raté un truc. T'avais une équipe en pleine force de l'âge.
T'as raté un truc parce que c'était bien plus dur. T'es tombé contre une équipe de Barcelone qui a tué.
Chelsea est mauvais.
C'est le plus mauvais Chelsea que tu
rencontres. City, pareil, c'est pas un gros City.
Chelsea et City, les deux années 2 et 3 de Laurent Blanc, c'est une honte de sortir dans ces matchs-là.
Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas tout le temps retenir les.
Mais tu vas me dire que tu retiens la remontada pour Emery, donc faut savoir.
C'est ce que je te dis, c'est l'imaginaire.
Excusez-moi, on va recentrer la question. Là, on est plus sur
l'imaginaire
sur aujourd'hui.
Collective.
Qu'est-ce que t'en penses, toi, Alexandre, aujourd'hui, leur résultat, de leur performance et...
Moi, c'est ce que je disais depuis le début, c'est qu'aujourd'hui, t'as une équipe qui est très cohérente. Qui sait où elle veut aller, qui a un projet de jeu qui est clair, défini. Et ce que je vous disais, c'est que quand tu as des joueurs en confiance, et ben forcément, le petit plus qui manquait, et ben là, ça devient un truc qui est totalement naturel. Il y a une osmose collective qui se crée. Et comme je vous disais aussi, c'est quand tu as des ailiers qui sont performants, comme Barcola qui avait un petit coup de moins bien, qui commence à revenir parce qu'il y a de la concurrence qui s'est installée, Kvaratskhelia, Désiré Doué. Et Ousmane Dembélé, bon là qui, je trouve ça bien le nouveau rôle d'Ousmane Dembélé qui est un peu électron libre dans le cœur du jeu, etc. Je trouve qu'il s'est très bien trouvé. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, forcément, quand les attaquants ils marquent des buts, ils marquent les actions déterminantes, forcément, ça devient beaucoup plus simple pour le reste du collectif, pour le reste de l'entraîneur, pour gérer un match, etc. C'est beaucoup plus simple. Mais en tout cas, là, le Paris Saint-Germain de maintenant, moi, il m'emballe. Après, je peux comprendre la réticence de certains supporters, c'est normal. Moi, je suis pas supporter de Paris, du coup, je regarde les matchs avec du recul et un point de vue omniscient, on va dire. Mais là, quand je vois les matchs de Paris, je me dis, je suis content. Vraiment, je suis content. Je me dis, ok, je vais voir un match de Paris, je suis content. Le match d'hier, j'étais content, même s'ils se prennent deux buts, il y a toujours des choses qu'on peut redire, bien évidemment. Mais il y avait quand même, tu sentais au fond qu'il y avait une classe d'écart. Tu sentais qu'il y avait une classe d'écart entre les deux équipes, selon moi. Et là, tu vois des joueurs qui marchent sur l'eau, franchement. Hakimi, Dembélé, c'est vraiment des joueurs qui sont... Kvaratskhelia, ils font un super match.
Doué aussi depuis deux mois.
L'entrée de Gonçalo Ramos, elle est incroyable. Doué depuis deux mois, comme tu as dit. Puis le milieu, Vitinha Neves, il est solide. Pacho derrière. Donnarumma qui se met à sortir des arrêts décisifs. Enfin, en Ligue 1, il a toujours été bon, c'est vrai.
Je pense que c'est depuis qu'il a pris le coup contre
Monaco. Il a plus peur de sortir.
Ce moment-là,
c'est possible.
Il est un peu plus
possible. En tout cas, Luis Enrique, pour l'instant, il trouve les bons mots et ça fonctionne. Et il faut le dire. Et moi, je suis d'accord avec Maxence. Il y a deux mois, même tous ici, faut pas mentir, on nous aurait dit Liverpool-Paris, on aurait rigolé, on aurait dit Paris n'est pas prêt, Liverpool marche sur l'eau, Paris va perdre. Bon, après, c'est football. Mais là, maintenant, on dit Paris-Liverpool. Moi, je pense que Paris a toutes ses chances de gagner et ils doivent regarder Liverpool dans les yeux et venir faire un match au Parc des Princes et Anfield comme un match de bonhomme et se dire que si tu veux gagner la Ligue des Champions, il faut battre les meilleurs et c'est maintenant que ça se joue. Et je pense que Paris a vraiment toutes ses chances contre Liverpool. Voilà.
Après, il ne faudra pas juger la saison du PSG, pour moi, que sur ce résultat-là. C'est aussi la manière. Même si tu es éliminé, pour moi, ça peut être une grosse saison et bien meilleure que celle de l'année dernière, alors que l'année dernière, tu fais demi-finale. Si tu fais 2-2, 1-1 et que tu perds en prolongue là-bas sur un but de Salah, bon, bah, tu as été éliminé, c'est pas grave. Et à l'inverse, si tu passes en étant un peu comme l'année dernière, en tapant la Real Sociedad, un Barça à 10, etc., ça ne veut pas dire pour autant que tu es une meilleure équipe. Donc pour moi, il ne faudra pas tout baser sur ce résultat-là, même s'il sera important dans la lecture de la saison.
Et juste, petite parenthèse vite fait, Dembélé, il est excellent, il n'y a rien à dire. Il est vraiment très très bon, mais moi, j'aurais toujours une réserve sur ce joueur.
Mais
il y aura toujours un mais. Il y aura toujours
J'attends de... Je t'écoute.
Ah ouais, non,
mais déjà, on va attendre de le laisser faire une saison complète, déjà, ça serait bien.
Voilà, c'est ça. Il y aura toujours un mais sur ce joueur. Et quand bien même, on me dit à la fin de sa carrière, ah, vous avez vu, vous vous souvenez de sa saison 2024-2025, je dirais, bah oui, mais bon, Dembélé, ça n'a jamais été un joueur extraordinaire.
Tout dépend. S'il t'amène la Ligue des Champions en marquant jusqu'au bout, là...
C'est un joueur frisson, mais ça n'a jamais...
Non, mais tu dis,
en fait, c'est un joueur, il a fait une saison.
Bah peut-être qu'il en fera plus.
Attends, il a 27 ans, il a encore des années de football devant lui, laisse-le. Il y a des joueurs, ils arrivent à maturité tardivement.
J'ai été très traumatisé par ce joueur.
Par contre, je l'attends sur la double confrontation Liverpool. Parce que là, c'est très très bien ce qu'il montre en Ligue 1, etc. Mais là, sur la double confrontation Liverpool, c'est le joueur clé côté PSG. Il peut pas passer à travers les deux fois.
Vrai, là, il va falloir qu'il montre
des choses. Comme on attend Salah de l'autre côté, on va attendre Dembélé côté PSG.
Vous savez que c'est sa meilleure saison en termes de buts marqués de sa carrière.
Après, il partait pas de très haut.
Il partait pas très haut.
Bah, en plus, ça s'est passé, tout se passe en peu de temps. Et ça a commencé il n'y a pas longtemps. Donc déjà, bon, pour moi, ce qu'il fait, c'est déjà impressionnant. Même si,
c'est impressionnant, mais il faut toujours avoir des réserves avec ce joueur.
Oui, il faut toujours avoir des réserves. Mais il ne faut pas banaliser la progression, l'explosion et tout ce qui en suit. Parce qu'il y a quelques mois, il fait une partie de saison comme ça. Franchement, j'ai toujours cru en lui, mais pas à ce niveau-là.
C'est impressionnant, même son butier, encore, il est impressionnant.
Ah, non, parce que rien qu'en 2015, en 2025, il te met combien de buts? Il te met plus de
16 là.
Il t'en met 16.
C'est le meilleur buteur 2025.
C'est impressionnant, c'est très impressionnant. Donc, à pas banaliser.
C'est pour ça, mais comme il a dit, il faut quand même, on l'attend sur la Ligue des Champions.
Bien sûr qu'on l'attend. Même s'il marque pas.
Il marque contre Metz, c'est très bien.
J'attends pas qu'il marque, mais qu'il fasse au moins la différence.
Bien sûr.
Et je pense qu'il a les atouts pour le faire.
C'est comme on disait sur Mbappé quand il était là. Hein. C'était marqué contre Brest, contre Reims, c'est bien. Maintenant, fais gagner en Ligue des Champions.
Bien sûr.
Mais ça montre bien les nouvelles attentes qu'on a envers Dembélé.
Exactement. Ça montre qu'il a endossé le costume.
Et même si depuis 3 mois il est injouable, il avait déjà été plutôt bon en début de saison, hormis en Ligue des Champions. Il a plus de 25 buts, toutes compétitions confondues depuis le début de l'année. Donc, on peut dire que Dembélé, il a pris le rôle de leader. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en début de saison, avec la mauvaise adaptation de Doué, avec Ramos qui était blessé, on avait l'impression que Paris était très très court offensivement. Et là, avec l'arrivée de Kvaratskhelia, plus Doué qui s'est mis à très très bien jouer, plus Gonçalo Ramos qui nous fait des gestes exceptionnels d'ailleurs depuis le début de la semaine, et ben on voit qu'en fait la ligne d'attaque de Paris elle est fournie et que finalement l'effectif il apparaît beaucoup plus cohérent qu'en début de saison. Et c'est ça qui donne des espoirs aussi pour
homogène. Comme je rejoins Maxence, comme je disais il y a plusieurs semaines, ça fait plusieurs semaines que je le dis, le danger il vient de partout. Pas d'un joueur, ça va à gauche et dans le centre.
En début de saison, on n'y croyait pas forcément à ça. Parce que Nuno Mendes il jouait plus bridé, parce qu'on disait que l'effectif ils avaient du mal à se trouver.
C'était une nouvelle équipe, c'était la première saison sans Mbappé. T'as des nouveaux joueurs qui sont arrivés, t'as Doué, t'as Barcola aussi qui commence à se confirmer.
Il y a plein de nouveaux statuts.
Il y avait plein de choses à refaire et petit à petit, ils ont su le faire. Et là, tu vois que maintenant,
ils sont au-dessus des espérances. Même. On pouvait se dire que ça allait arriver, mais là, quand tu vois notamment
pas à ce point-là, ouais.
le 7-0 avec 7 joueurs qui marquent, avec et tu sais, la cohérence dans le jeu, ça attaque tout le temps jusqu'au bout pour faire mal. Moi, c'est des choses que j'ai très rarement vues au PSG et surtout pas à l'époque Laurent Blanc.
Mais moi, ce qui m'impressionne le plus dans ce PSG, c'est que c'est le danger, il arrive de partout. Parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un PSG comme ça.
Et Dembélé peut tirer profit de ça parce que les défenses sont pas focus que sur lui. Que sinon il y a le bordel de l'autre côté, il y a Kvara, il y a Barcola, il y a Doué. Donc contre lui, Liverpool, profite de ça en étant un peu un parmi tant d'autres.
C'est ça une grosse
contre équipe, Liverpool, exactement. C'est comme ça qu'on voit que peut-être que le PSG va gêner Liverpool parce que
on sait
les latéraux.
Liverpool défensivement,
les latéraux. Tu vois, quand t'as Barcola sur côté gauche,
t'as Van Dijk et Konaté dans l'axe, mais si t'as pas un vrai neuf sur eux, en gros t'as un mec comme Dembélé va poser plus de problèmes. Et Konaté qu'un mec comme Haaland.
En étant électronique,
tu vois, dans le sens où
dans le placement, déjà il va plus s'embêter, bien sûr.
De l'autre côté, ils peuvent être embêtés aussi, par contre. Hein. Parce que ça, là, contre Nuno Mendes, ils attendent
de
voir.
Ah oui, oui, oui.
Mais oui, même quand tu vois encore ce que Konaté et Van Dijk qu'ils ont fait contre City, là, les espèces de deux grandes murailles.
T'as lu
que même
aussi de l'autre côté.
C'est ça. Il faudra des
Non, là, ça va être deux gros matchs. Ça va être deux beaux matchs.
Ça va être un match avec beaucoup de buts, comme j'ai dit, moi, je pense. Parce que, voilà, ça va attaquer dans les deux sens et ça va aller très vite. Et je pense que celui qui sera le plus costaud défensivement, il aura l'ascendance, logiquement.
Moi, je pense que ça sera celui qui sera le plus offensif.
Bah, pour être offensif, il faut être costaud derrière aussi. Parce que si t'es pas costaud derrière, tu te prends des buts. Hein, parce
Mais t'en prends tant que t'en mets, c'est le plus important.
Mettre, derrière, faut défendre aussi.
Oh, les débats philosophiques sur le football.
On va avancer. Hein. On va rappeler la Ligue 1. On a même pas beaucoup parlé de la Ligue 1. Nous sommes désolés. Hein. Mais
je trouve qu'on
n'a
pas assez parlé de Lille-Monaco, la belle... opération de Lille. Non, mais gros coup de Genesio encore.
La talonnade de Birès.
Non, mais faut le dire, tu vois.
Les individualités monégas qui continuent à les plomber en défense, là. Cette passe de Singo pour Zakaria qui glisse, ça fait de la peine.
Ça fait 2-3 matchs que ça.
C'est ce que le coach dit, c'est des choses qu'on ne peut pas travailler à l'entraînement.
C'est une équipe qui.
Mais quand c'est aussi récurrent, les erreurs individuelles, il y a forcément un truc. Comment dire, collectif, tactique, qui fait qu'à des moments, ils savent pas ce qu'ils ont à faire, ils hésitent. Et c'est ça qui amène les erreurs individuelles. Je pense qu'ils devraient se dire ça à 18h parce que là, y a quand même beaucoup trop d'erreurs individuelles depuis un mois. Et d'ailleurs, ils sont sortis toutes les compétitions. Donc, peut-être un peu de remise en question, ce serait pas mal.
Moi, je pense que ça fait le plus grand bien aussi aux Niçois d'être sortis de la Ligue Europa. Hein. Voilà, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Hein. Est-ce que l'équipe peut enchaîner les deux tableaux? Je pense que Nice n'y arrivait pas. C'est pour ça, dû leur inconstance en Ligue 1. Mais là, je pense que ça devrait aller. On va rappeler les scores Paris Saint-Germain qui sont imposés 3-2 à Lyon. Toulouse qui sont imposés 4-1 au Havre. Brest-Strasbourg 0-0, nul score vierge. Avec Nice face à Montpellier, Nice qui se sont imposés 2-0. Nantes qui se relance 3-1 face à Lens, les Lensois qui n'y arrivent plus. Et Auxerre, bien évidemment, qui ont mis 3-0 à Marseille. Un match fou entre Saint-Etienne et Angers, 3-3. Lille qui se sont imposés 2-1 face à Monaco, qui font la bonne opération du jour. Et Rennes aussi qui s'impose face à Reims. Et Habib Bey qui ne s'arrête plus de gagner tout simplement. Et de troisième clean sheet aussi. À remarquer, troisième clean sheet et troisième match où il gagne tout simplement. On va rappeler le classement, le Paris Saint-Germain en tête avec 59 points, Marseille deuxième avec 46 points, Nice avec 43 points, Lille avec 41 points, Monaco avec 40 points, Lyon avec 36 points sixième, Strasbourg et Lens et Brest se maintiennent un peu derrière avec 34, 33. Et pour la fin, Montpellier, on dirait que Montpellier, les carottes sont cuites. En tout cas, là, ça commence à être difficile pour Monaco. Pour Montpellier, après, on sait que les barragistes n'étaient pas directement éliminés. Du coup, Montpellier peut essayer de jouer ce coup-là. Le Havre avec 17 points, 17e aussi. Et Saint-Etienne avec 19 points, 16e. Reims qui dégringole, hein. Reims qui sont juste à côté, hein. Attention à Reims aussi, hein. Reims avec 22 points, d'un match à un autre, ils peuvent passer 16e, en tout cas barragiste, faut faire attention aussi, parce que Reims, ils enchaînent les mauvaises performances là depuis un certain temps.
Et je crois qu'ils jouent Monaco en plus le week-end prochain, donc encore un match difficile pour eux.
C'est ça, ils jouent Angers.
Ils ont un match en semaine,
c'est la Coupe de France, oui, pardon, oui, c'est ça, ils jouent à Monaco.
Le week-end prochain.
Ils jouent à Monaco le week-end prochain, ce qui ne va pas leur faciliter la tâche, quoique avec Monaco en ce moment.
Si Singo fait une passe D, pourquoi pas.
Voilà. On va se faire une petite virgule avant de revenir, bien évidemment, avec la Ligue des Champions. Hein. La Ligue des Champions, les tirages. On a eu les tirages au sort. On a eu aussi les résultats. Hein. Le Paris Saint-Germain qui atomise 7-0 Brest et iront défier Liverpool pour ses huitièmes de finale de la LDC. Manchester City ne réalise pas l'exploit et se font dominer dans tous les compartiments par une équipe du Real Madrid menée par un seul homme, Kylian Mbappé, auteur d'un triplé. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. On y revient tout de suite. Bien au contraire, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Kylian Mbappé, auteur d'un triplé, qui rentre dans la légende aussi en phase éliminatoire, qui met un triplé, il rejoint les R9, Ronaldo, Cristiano Ronaldo aussi, Karim Benzema, il rejoint toutes ces légendes aussi, et ça lui fait plaisir, et il espère continuer ainsi. En tout cas, je pense que les carottes étaient cuites très rapidement, en quatrième minute de jeu, Kylian Mbappé avec un super blob. Ederson ne peut rien faire. Et ensuite, ça déroule. Hein. On n'a pas senti City dans le coup. Pas une seule fois, en fait. Même le but à la fin, on a vu les supporters au Santiago Bernabéu applaudir. Et en plaisantant, « Léa, bravo, vous avez réussi à mettre un but. » On a pu le voir, c'était un Manchester City très piteux, franchement, qui déçoivent énormément. On aura le droit à un derby 100% Madrid avec le Real qui iront défier l'Atlético de Madrid. Hein. Ça nous fait repenser à ces belles confrontations en Ligue des Champions, notamment la finale aussi, la décima. Je pense que celle-là, Modric s'en souviendra avec le corner et Sergio Ramos surtout, qui a pris d'ailleurs ce numéro dans le nouveau club qu'il a rejoint. À la minute à laquelle il avait marqué le but de la décima,
93,
de l'égalisation,
je crois,
93 ou 94, je crois qu'il a choisi ce maillot-là pour le nouveau club avec lequel il joue. On a pu voir l'AC Milan se faire dominer, contrairement à ce que Cheikh Kenza nous disait. On a pu voir Théo Hernandez simuler une faute qui lui a valu un deuxième carton jaune et synonyme de carton rouge et qui a dû se faire expulser et laisser son équipe un peu en plan. Et son équipe se sont fait rattraper à 10 contre 11, n'ont pas pu tenir ce score-là et ils se sont fait éliminer par une belle équipe du Feyenoord malgré le but de Jiménez qui venait de quitter Feyenoord il y a quelques semaines. Et bien évidemment, on a pu voir Lookman qui a essayé de sonner la révolte, mais ça n'a pas marché hein, avec un but et un pénalty loupé. Notamment, on va revenir sur aussi ce que le coach a dit par rapport à ce pénalty loupé. Monaco, tout simplement, défensivement, c'est ce qu'on dit depuis plusieurs semaines, n'y arrive plus et n'y arrive pas encore. On a pu voir les cadeaux offerts défensivement face au Benfica. Et franchement, c'est triste parce que là, cette fois-ci, on avait vu une équipe de Monaco qui avait envie et qui pouvait faire quelque chose réellement. Et tout simplement, le Bayern qui se sont fait peur face à une belle équipe du Celtic et qui égalise dans le temps additionnel, ce qui permet au Bayern de se qualifier de justesse sans passer par les prolongations. Qui veut se lancer ?
Il y a beaucoup de choses là.
Qui veut se lancer ? Je veux juste faire un petit big up à chez Kenza. Apparemment, le bilan allait finir dans le dernier carré. MDR.
Et d'ailleurs, c'est grosse faillite des clubs italiens, puisque l'Atalanta sort, le Milan AC et la Juve. Ouais, ça permet au club hollandais d'avoir des shoots inespérés.
Après,
mais
Feyenoord, ils méritaient largement.
Quand tu vois ce qu'ils ont fait contre Lille, franchement, tu peux remettre en question.
C'est un scandale. Hein, pour les clubs italiens, c'est un scandale.
C'est un scandale.
Perdre contre ces trois équipes qui ne sont pas des ogres européens. Si on avait trois clubs français qui étaient tombés contre PSV, Feyenoord et. Pardon.
Non, c'est un peu différent, je pense.
Pourquoi ?
Les clubs français,
si demain t'as PSG
qui est moindre que les clubs italiens.
Mais même, encore pire.
C'est encore pire pour les clubs italiens.
Du coup, si demain on avait PSG, Lille, Monaco qui tombaient contre Feyenoord, PSV
Bruges pour l'Atalanta, pardon.
Ça sera en une de l'équipe, ce serait un drame pour le football français. Donc, pour le football italien qui a des équipes globalement meilleures, si on prend l'ensemble, c'est pour moi un gros fiasco.
Après, pour revenir au match du Real Madrid. Je pense que moi je le regardais avec Maxence. Je pense qu'on s'ennuie un beau bout au bout d'un moment parce qu'il y avait un peu de suspense. Tu vois, au bout de 1 ou 2-0, ça y est, le match était plié, comme pour celui du Paris Saint-Germain. Ça y est, au bout de 1, même au premier but, deuxième but, allez, ça y est. J'avais pas l'impression qu'il y avait de gros suspense dans cette journée, à part le match de la Juve, tu vois. Le match de la Juve, on l'a regardé jusqu'au bout et.
Il n'y a pas beaucoup de suspense. Franchement, la Juve a été inoffensive en prolongation. Ils prennent le but. Il y a peut-être une occasion, je crois, juste avant la mi-temps des prolongations.
Ça se passe au niveau de la qualification, même pas au niveau du jeu. Parce qu'on sait, même celui-là, il n'était pas flamboyant non plus. Parce qu'après, on a basculé sur la prolongation. Mais sinon, dans cette journée, je n'ai pas vu de grosses surprises. Je pense que tous les scores sont assez logiques.
Sinon, pour City, je pense qu'on se trompe dans l'analyse, même en avant-match. Parce qu'on a le recul sur les City des 4, 5, 6 dernières années. Mais en fait, tous les matchs de City, on les présente comme des chocs. Quand il y avait PSG City, on disait « Ah ouais, c'est un choc, c'est un vrai choc pour le PSG. » Quand il y a eu,
c'est un choc parce que ça reste quand même les noms, Maxence.
C'est ce qu'on dit. Ça reste les noms. Mais quand je vois sur le terrain, PSG, ils en prennent 4. Derrière, ils vont contre Arsenal. On dit « Ouais, c'est un choc de PL, etc. » Ils en prennent 5 aller-retour contre le Real, ils perdent les deux fois, notamment à l'aller 3-2, alors que le Real peut en mettre 5-6 si c'est dans
non,
un bon
ça,
soir.
C'est normal. Mercredi aussi,
pas
vraiment
empêcher
5-6,
ça. Franchement. Mercredi aussi.
Moi, je me demande à combien
contre,
Mbappé,
contre Liverpool, là. Liverpool, ouais, c'est un choc de PL. Liverpool City. Au bout de 20
logique.
Minutes, c'est terminé. On sait très
ils
bien, c'est en maîtrise.
Encore,
ils peuvent en mettre. Et si Liverpool a besoin d'accélérer, ils peuvent accélérer et en mettre 3-4.
C'est un jeu de ça pour le 3-0.
Voilà, c'est. Et donc, en fait, à mon avis, il ne faut plus analyser les matchs de City en se disant. Ah, c'est un choc, on va voir ce que ça va
pas,
dans un
gros
match.
Tu peux pas empêcher ça.
Bah, si c'est obligé.
Peux.
En fait, ça reste des joueurs
oui,
qui peuvent avoir
ça.
Un sursaut d'orgueil. On a pu le voir face à Newcastle, leur claquer un 4-0.
Newcastle, c'est pas la même chose.
Oui,
hein,
mais Newcastle,
ça
c'est une bonne équipe.
Temps.
C'est, fort, c'est une bonne équipe, Newcastle. Excusez-moi, mais Newcastle, c'est top 5 PL.
Ouais,
non, Newcastle, c'est devant Chelsea. C'est top 5 PL. Newcastle.
Ouais, mais sur les...
Depuis deux journées, ils étaient un peu devant, ils sont remontés là depuis un moment.
Ils ont eu un sursaut avec Marmouche qui m'a triplé, mais sinon, leur match dans l'ensemble, sur les 5-6 matchs que je t'ai cités là, dans les chocs,
oui.
C'est ridicule. Contre Arsenal, tu vas en prendre 5. Contre le Real, tu perds deux fois. Contre PSG, tu perds lamentablement. Contre Liverpool, là, t'existes pas. Enfin, pour moi, ça ne doit pas être sur le même pied d'égalité que d'autres grosses équipes, tu vois.
Mais ce qui est difficile, c'est qu'en fait, dans cet effectif, tu as des joueurs qui, sous le maillot de City, ont fait les heures de gloire du club.
Bien
je
sûr.
Pense à Gundogan, à De Bruyne, à Bernardo Silva notamment, qui sont catastrophiques depuis un moment et qui, en fait, ont porté l'équipe, ont fait des choses merveilleuses en Europe et en PL. Et donc, ça explique quand même que quand tu as des joueurs de ce calibre-là, tu ne veux jamais les enterrer jusqu'au bout.
Ouais, bien sûr.
Ne jamais, jamais sous-estimer le cœur d'un champion, etc. Il y a des joueurs sur 90 minutes, ils peuvent renverser une situation. Par contre, on a vu dès la troisième minute avec l'erreur de
Ruben
Dias.
C'est une action que tu vois en district,
c'est ça,
le défenseur central qui court, qui
non,
tombe.
Plus,
c'est,
fin,
ouais,
pas,
c'est, pas.
Je sais pas s'il y avait des consignes pour remettre les têtes comme ça, absolument, parce qu'on voit que Kousanov il fait la même 20 minutes plus tard et ça fait aussi une grosse occasion pour Vinicius.
Ça fait vraiment que la défense de City elle est pas.
C'est fébrile. Et du coup, moi je sais pas comment ça a été préparé, mais on voit que défensivement, si tu veux préparer une remontée, faut déjà défensivement tu sois
bien
solide.
Et puis c'était qu'un but à remonter, c'était pas non plus, il y avait pas 4-0 quoi. Donc
après, quand tu vois la leçon qu'il leur a mis sur le deuxième, je pense que le deuxième il avait tué le match.
Non, non, mais il y a pas match.
Qu'ils ont
et
eu,
puis même à l'aller le 3-2, il est déguisé. C'est-à-dire que le Real doit gagner bien avant. Si,
après,
si le Real ouvre
après,
le score.
Après,
si...
dans le scénario, quand t'es à 2-1, tu peux prendre 30 occasions, t'es toujours à 2-1. C'est
ouais,
en fait
bien
le,
sûr.
Le 2-2 et 3-2, les deux buts en fin de match, effectivement, ça change complètement le scénario. Ça montre, ça valide un peu la domination du Real sur le match et ça ouvrait la victoire qu'on a vue mercredi.
Ouais, bien sûr. Mais je veux dire, même à 0-0, si le Real ouvre le score, ça aurait pu finir en leçon dès le match aller, en fait.
Ouais, bien
et
sûr, je suis d'accord.
Tuer complètement le suspense.
Ouais. Et du coup, on a fini sur le Real, je pense, on va parler un peu du PSG. Et du coup, ouais, ce qu'on disait un petit peu, c'est là. Dans ce qu'on disait sur le collectif, c'est, je pense, l'exemple le plus éclatant, puisqu'on a vu 7 buteurs différents, et on a vu même le 7ème but, ils n'ont même pas envie de le marquer, limite. Mais comme ils jouent trop bien, ils se retrouvent dans la surface, bah, Mayulu, il tente sa chance, et ça fait un 7ème but. On voit qu'ils n'ont pas défait l'accélérateur. Et j'ai vu une comparaison que je trouve pertinente, c'est avec le Bayern de Munich d'il y a quelques années, qui, quel que soit l'adversaire, allait t'en mettre 5, 6 s'il fallait, mais allait jouer jusqu'au bout. Pour répéter ce type d'effort, faire marquer tout le monde, etc. Et je trouve que Paris prenne un peu ce virage-là, qui est un peu revendiqué par Luis Enrique, qui veut une équipe très collective. Et j'ai l'impression que même si, comme on l'a dit tout à l'heure, Paris ne passe pas les huitièmes, en fait, ils sont sur le bon chemin. Et là, pour une fois, il faut de la patience et laisser les joueurs se développer, parce que le potentiel, il est là.
Merci, Lucas. Salé, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ces journées de PL et des prochaines séances qui vont arriver?
Qu'est-ce que j'ai pensé de cette journée de PL? J'aimerais penser une petite pensée à Arsenal.
Ligue des Champions, non?
LDC.
On est sur LDC là, ouais.
Oui, LDC, pardon.
Ah, sur LDC, bah, de toute façon, j'ai déjà dit mon mot là-dessus, moi. Tu vois, tous les résultats pour moi sont.
Monaco, peut-être. Monaco, on peut souligner le match d'Akliouche.
Ouais, contre le Benfica, là.
Ouais, Akliouche, moi, je l'attendais beaucoup à ce niveau-là, voir ce qu'il allait montrer en Europe sur un match à élimination directe,
ouais,
et pour moi, c'était le meilleur côté Monaco.
Ouais, c'est le seul qui se démarque.
C'est pour ça, il a été monstrueux.
Jeu,
pour moi, il a été monstrueux. Et là, il a laissé sa carte de visite pour les gros clubs européens pour cet été.
Ben Seguir, malgré son but, il a encore un peu de temps.
Il
en rate une ou deux.
Bien sûr,
Akliouche, pour moi, il confirme.
Akliouche, il a été exceptionnel. Il donne un ou deux ballons de but à Mbolo. Enfin, c'est. Vraiment, il a fait un super match.
Mbolo qui rate, qui loupe
qui rate
un,
beaucoup. Depuis qu'il s'est blessé, c'est plus le même joueur.
Ouais,
là,
je sais pas si
sa blessure grave l'an dernier, c'est plus le même joueur.
Ouais, on va dire Monaco sur cette journée. Je suis vraiment, c'est dommage parce qu'il y avait match à faire quelque chose. Mais c'est les boulettes encore. Il y a trop de boulettes. Il y a Kerrer qui a été.
C'est vrai, de toute façon, c'est un club à part, hein, Monaco.
Ouais, mais tu
les
vois.
Les joueurs, quand ils sont là-bas, ils ont l'impression qu'ils sont différents.
Enfin, non, c'est... bah, t'as des saisons, ils font des saisons de malade, tu vois.
Ça peut être c'est soit tout blanc, hein. Soit tout noir.
Ouais,
c'est
parce qu'il y a... J'ai l'impression que ouais, quand ils sont éliminés, on va dire c'est pas choquant. Et quand ils vont loin,
tout le monde s'en fout, globalement. Il n'y a pas de supporters. Les médias s'en foutent. On a déjà oublié la podcast. Il y a trois jours, on a oublié.
Il y a tellement pas de pression.
Ça, c'est un club qui se passe rien.
Je pense qu'on en. Mais justement, il faut qu'on en parle plus parce que tu vois. Monaco, ils ont une belle équipe quand même.
Ils ont des bons joueurs.
T'avais quoi, Titi Benfica? Là, tu te fais éliminer sur des fautes individuelles. Surtout Kirer, le match. J'aime pas dire ça. Mais...
Alors que pourtant, il a fait une bonne première partie de saison. On se disait Kirer,
sur
un
ce match-là, t'es capitaine. C'est, si toi, déjà mentalement, t'es fébrile, le reste de l'équipe, c'est comment?
Mais l'élimination, elle est pas honteuse, hein, mais c'est frustrant en fait. Parce qu'il y avait la place. Tu sens qu'il y avait la place.
Après, Benfica, le scénario, il est dur. Ils ont eu tellement d'occasions, notamment en première mi-temps. Et se prendre le but du 3-3, il est ridicule.
Mais pour moi, le match où tu rates le coche, c'est à l'aller. À l'aller, tu joues pas en fait. À l'aller, ils ont rien proposé. Quand tu vois le jeu.
Il y a le rouge.
Ouais, mais à la 60e. Mais quand tu vois tout ce qu'ils se sont procurés. Ouais, mais tout ce qu'ils sont procurés là-bas, à Louis II, ils ne se sont pas procurés le quart de ces occasions-là. Ils n'ont rien proposé, en fait. Ils attendaient de gérer un 0-0, un 0, mais ils n'ont pas proposé grand-chose. Donc,
mais Benfica, c'est une bonne équipe quand même. Même s'ils n'ont pas fait une très grosse double confrontation. Franchement, c'est une équipe qui a l'expérience européenne.
Le Barça avait l'air quand même content de les tirer, plutôt que le PSG.
Non mais forcément, c'est normal.
C'est pas le même chapeau
de tirer Benfica plutôt que le Paris Saint-Germain, c'est normal. Mais
en sachant que après, dans tous les cas, ensuite, ceux que tu comptes jouer après, en tout cas, t'es plus du côté. Ça a un
en plus, oui, c'est une question de tableau. Aussi, c'est mieux de tirer Benfica, etc.
Ouais, Benfica, non, et après,
mais il y a quand même des joueurs. PSG, c'est Aston Villa, je crois. Donc
t'as toujours un quart facile. C'est ça, t'as toujours un quart facile et une demi qui est difficile.
Je crois que le.
Après, en demi, t'as le Real ou.
Oui,
t'as le Bayern de l'autre côté.
T'as Inter Bayern.
Après, moi, je dis toujours, faut arrêter. Les histoires de esquiver les gros, oui, il faut aller plus loin, mais si tu veux gagner des titres, faut taper les gros, faut pas avoir peur de les affronter.
Oui, et puis surtout, inconsciemment, t'es toujours mieux.
Entre maintenant et fin avril, il peut se passer tellement de choses.
Honnêtement, honnêtement, moi, dans les matchs qui me semblent venir, moi, je vois en fait, pour moi, ça n'est même plus une surprise, honnêtement. Le match Benfica FC Barcelone, si Benfica sort le Barça, ça n'est pas une surprise pour moi.
Ah, pour moi
j'ai
pour
vu
pour
moi, c'est moi,
Barça de cette année.
En vue de ce qui s'est passé.
Je suis d'accord, moi.
En vue de ce qui s'est passé au match de phase de poule. On a tous vu le match de phase de poule ensemble.
Non mais Benfica
Barça,
c'est typiquement l'équipe qui peut
Barça
faire souffrir
gagne,
le Barça.
Après le Barça c'est l'équipe de ce match.
En plan de jeu, c'est une équipe qui a fait souffrir le Barça. Le Barça s'impose.
Exactement ce genre
de. Le Barça jouait rien sur ce match. Le Barça jouait rien, était déjà qualifié.
Non mais
quasiment.
Il jouait la première place. Surtout que Liverpool a perdu.
Il jouait rien, les gars. C'était pas. Pour moi, sur les 8 matchs, tu peux pas tirer un enseignement comme ça. C'est comme si demain il y a PSG contre PSV et je te dis attention, le PSV ils ont fait chier le PSG sur une double confrontation. Je pense qu'ils existent pas.
C'est pas pareil.
Barça Benfica sur une
Benfica ils en ont mis 4.
On verra, mais moi je pense que
Benfica attends,
ils en ont mis 4.
Ouais, mais ils en ont pris 3 contre Monaco. Les faiblesses que j'ai vues défensives de Benfica contre le Barça, ça va être puissance 10. Et à mon avis, ils vont
ça va pas être si vilain.
Ça va passer assez largement côté Barça.
Et là, je vois ce que tu veux dire. Tu veux rebondir sur un match qui s'est fait il y a quelques mois. Mais je pense que FC Barcelone reste quand même tout de même favori.
Je n'ai pas dit que ça n'était pas les favoris.
Oui,
je,
non.
Si demain Benfica sort le Barça, ça ne me choquerait pas.
Pour moi, c'est un gros flop. Si le Barça sort contre Benfica, pour moi, c'est une grosse
flop. C'est pas choquant. Peut-être pour toi, ce serait pas choquant. Moi, un petit peu choquant.
Je serais moins choqué par contre qu'il y ait des surprises dans les confrontations entre les mêmes pays. Atlético, Real et.
Leverkusen, ils vont taper le Bayern.
Bayern.
Je le sens bien.
Je pense que ça, tout le monde le voit.
Parce que moi, j'ai encore vu.
Après,
j'ai encore
vu un peu.
Contre Celtic, là, c'était
compliqué. Même là, le dernier match contre Leverkusen, c'était.
Non, même. Ils sont fait dominer ce week-end. C'est contre Francfort ce week-end.
Ouais, Francfort 3-0.
Franchement. Ils ont gagné 4-0, ouais, c'est ça. Et 4, j'ai vu le match, et franchement, il y a un truc qui m'étonne avec le Bayern, c'est qu'ils sont pas sereins cette année. Ça veut dire qu'on voit notamment, leur attitude sur le terrain, tu vois Thomas Müller en début de match, dès qu'il y a une occasion ratée, il s'énerve, il en peut plus.
Et moi, je pense que c'est surtout défensivement qu'ils sont pas sereins, ressens. Déjà, les joueurs offensifs, ils sont pas en confiance. Je trouve que Compagnie, il fait un turnover un peu bizarre avec les 4 de devant, c'est Gnabry, Coman, Sané,
Kane,
voilà. Et il y a Moussiala, bon, il est installé, ça va, Moussiala, il est installé, et Kane, il est installé. Mais je veux dire, les 4 que j'ai cités, je trouve qu'il fait un turnover un petit peu spécial, il leur donne pas de la confiance, en fait. Gnabry et Sané, c'est souvent souvent eux qui rentrent et au final bah ils sont pas ils sont pas en confiance, tout simplement ils sont pas convaincants. Le milieu de terrain il est quand même nettement moins fort qu'avant.
Il me semble que Kimmich s'est blessé aussi.
En plus de ça, et en plus dans tous les cas ces derniers temps Kimmich il avait tendance à plus jouer arrière droit parce que comment il s'appelle,
Mazraoui.
Mazraoui, il était blessé. Mais
un homme comme Kimmich, juste sur le terrain, en termes de mentalité, vraiment, il leur apporte beaucoup.
Ouais, là, ouais, bien sûr. Soit pas là, je pense bien sûr. Goretzka, déjà... c'est un peu compliqué en ce moment. Pavlovic, c'est pas un niveau extraordinaire.
Il est jeune encore, Romia Ito.
Et
qui
oui,
fait
bien
un
sûr.
Bon
il
match,
est jeune,
mais
je veux dire, c'est pas le gros calibre européen. Non, bien sûr. Et moi, c'est surtout la charnière.
D'ailleurs, Kimmich,
Upamecano, Kimmich.
Bah c'est d'ailleurs qui a joué ce week-end.
Oui,
et
oui,
c'est
pas... d'ailleurs, mais je veux dire, en fait, Upamecano et Kimmich, bah, je pense qu'il va les aligner contre Leverkusen, la double confrontation. Et en fait, ils sont pas du tout complémentaires.
Ils sont trop lourds tous les deux.
Ils sont trop lourds tous les deux, ils ont pas une bonne relance.
C'est des stops.
Ils sont...
Upamecano, il a un pied quand même. Sous-utilisé de Upamecano, mais.
Bah, ouais, alors je suis d'accord, il l'utilise très mal, il n'y a pas de schéma de passe qui favorise Upamecano.
En plus,
sur son côté, le côté droit, c'est un peu compliqué. Et Neuer aussi, il faut dire qu'il est pas du tout. Pas très rassurant, Neuer.
Je pense qu'on doit le trouver son remplaçant.
Et puis au-delà de ça, Leverkusen, c'est l'équipe qui est capable de te mettre le feu. Et on l'a vu sur le match de Bundesliga il y a 10 jours, là, où ça fait 0-0. Mais franchement, ils ont des occasions, mais de fou.
Mais franchement, moi, je comprends pas. Moi, pour moi, ça, ce problème-là, pour moi, c'est Xabi Alonso qui devait le régler. En fait, là, il essaie de jouer dans un cadre où il veut jouer 109. Or que quand tu mets Patrick Schick ou Boniface, t'as deux attaquants comme
c'est
ça.
Vrai.
Tu sais qui plante. À la fin de ces occasions, tu sais que le petit pied qui te manquait pour la pousser au fond ou la petite frappe décisive qui te manque ou le coup de tête ou quoi, tu mets t'es là, t'es là.
Après,
c'est
ça te fait
petit.
Un peu penser
t'es
au débat qu'on avait avec le PSG au début de saison, tu vois.
Oui,
bah. Sur le faux numéro 9.
Mais oui. Et quand
sûr.
Tu mets
un.
Il essaye
d'apporter
mais
un aspect
Luis
collectif.
Enrique, oui, mais Luis Enrique, il avait un blessé après. Mais là même, t'as cet aspect collectif avec le Bayer Leverkusen, mais avec Boniface et avec.
Ouais, je suis
Patrick
d'accord.
Schick,
ouais,
moi, j'ai l'idée de
peut-être que tu perds une plus-value collectivement parlant, justement.
Sur le pressing, tu vois, la manière de. De dézoner, de
mais
changer d'espace.
Excusez-moi, mais tu marques. Et
oui,
ça se passe pas si mal.
Je pense qu'il veut Grimaldo aussi et Frimpong le plus haut possible. Et que du coup.
Oui, il est mort en piston.
Ouais, mais en piston très, très très offensif. Et qu'il veut les retrouver à la fois à la récupération et à la conclusion des actions. Mais
en plus, tu laisses une liberté à Florian Wirtz,
c'est
etc.
Ça, à Wirtz, ouais. Mais après, moi, je trouve que soit Wirtz, Patrick Schick ou Boniface, c'est des joueurs qui savent combiner. Donc pour moi, ils peuvent rendre ce collectif-là encore meilleur. C'est deux joueurs que j'aime beaucoup, que je trouve super utiles au collectif. Donc effectivement, je comprends pas non plus.
Je sais pas, moi, ça me choque pas parce qu'en fait, je les trouve tellement. Bah, je prends surtout comme exemple le match contre le Bayern il y a deux semaines parce que c'est un révélateur. Enfin, c'est le match en Bundesliga en ce moment. Mais je prends comme exemple. Je sais pas si vous avez regardé le match, mais franchement, Leverkusen, était vraiment meilleur. Hein.
Oui, mais pour moi, tu mets un Boniface ou un Patrick Schick, tu gagnes le match.
Mais peut-être que collectivement, tu perds aussi en maîtrise.
Non, mais il n'y a pas
en maîtrise, je pense.
En fait, même si tu produis moins, avec le moins que tu vas produire, tu vas en mettre au fond.
Ouais, on saura jamais.
Après, Boniface, il va tirer du collectif.
On verra comment
Xabi Alonso,
il va commencer son match contre Bayern aussi.
Il y avait eu le truc extra.
Mais il était blessé.
Il était blessé, en plus, après, il voulait partir. Il était à deux partir.
Mais après, il est bien revenu.
Oui, non, il est bien revenu.
Après, Boniface, on l'a vu manger des matchs cette année aussi.
Patrick Schick, juste après, là, Patrick Schick, ce week-end, il l'a encore marqué.
Ouais, mais de base, c'est le remplaçant de Boniface.
Oui, de base. Et très bon aussi.
C'est un très bon joueur.
Il fait une grosse saison.
Quand il n'est pas blessé, c'est un très bon joueur.
D'ailleurs, je pense que dans l'esprit de Xabi Alonso, c'est le numéro 1 cette année. Devant Boniface. On verra.
On en avait déjà eu ici il y a quelques semaines. Ouais.
Sur un gros match, je pense qu'il mettra Schick devant Boniface.
Je pense pas, moi.
Ouais, je pense pas. En tout cas, je pense que si tu veux vraiment gagner un match, et c'est Boniface. Hein. Honnêtement.
J'ai regardé Boniface la dernière fois qu'il a été titulaire, mais je crois que ça remonte un peu. Hein. Il fait que des bouts de match depuis sa blessure. Mais...
Oui, il était blessé.
Ouais, mais blessé, depuis qu'il est revenu, il a pas été trop titulaire. Hein. Bon, ce week-end, il joue 8 minutes. Après, quand il joue, il marque. Mais
en tout cas, moi, Stéphane, tout à l'heure, dans l'émission de Philippe, il disait que lui, il n'était pas du tout hypé par les confrontations là, des huitièmes de finale. Mais moi, c'est le contraire. Moi, je trouve que là...
Je suis hyper hypé.
Attends, t'as hypé quand même.
Moi, quand j'ai vu les huit, là, je me suis dit, pour moi, c'est le meilleur depuis ces deux, trois dernières années.
Ah, le tableau est trop bien.
À part le Bruges Aston Villa, ouais.
Et je trouve ça bien que les clubs...
À part qui, t'as dit ?
Bruges Aston Villa, qui a
même Bruges Aston Villa, c'est...
Même Bruges Aston Villa, parce que tu dis qu'Aston Villa peut passer, etc.
Non, mais bien sûr. Mais c'est un match à regarder. Attention, c'est ce genre de match.
C'est un bon match à 18h45.
C'est ça, 18h45, tu te poses devant.
Après,
si c'est à 20h45 que tu joues
pour un vrai match, c'est l'apéro quoi. L'apéro
c'est
avant
bien
la
qu'il y ait des confrontations entre
et
pays.
Et moi je pense que ça, ça va être des beaux matchs quand même. Hein. Oui, oui. Aston Villa, c'est une belle équipe. Foot, Club Rouge, moi j'ai vu, c'est
Dortmund-Lille, c'est super pour Lille qu'ils aient tiré Dortmund.
Et il y a la place.
Il y a largement la place. Real Atletico,
on en discute. On l'a vu l'an dernier avec le PSG, la place qu'ils laissent Dortmund en Ligue des Champions.
Ils ont la place Dortmund, attention, ils peuvent te surprendre.
Et c'est l'équipe de Coupe.
Ils sont favoris. Dortmund, ils sont favoris contre Lille.
Pour moi, ils sont favoris. Mais même sur la compétition, je dis pas qu'ils vont la gagner, mais les NNR, tu les vois pas en finale. Ils te font un parcours tout calme, personne ne les voit y arriver. Les mecs, ils arrivent tranquillement, boum, finale, même s'ils se font. C'est une équipe qui peut te casser les pieds. On les voit pas venir, mais attention.
L'Inter
en
aussi,
plus,
c'est
t'as
bien.
Guérassi, t'as Guérassi qui fait que planter, qui vient de mettre un quadruple.
Après, ils sont 10e en Bundesliga, c'est quand même pas.
Après, il n'y a pas beaucoup de points. Différence.
Il n'y a pas
de
grosse différence.
Ils montent 3-4 matchs. En 2-3 matchs,
en 2-3 matchs, ils remontent. Ils sont à 29 points, je crois. Il y a Guérassi, là, il t'a mis un quadruple.
Parce que ça va être important aussi pour eux au niveau club de garder la Ligue des Champions l'année prochaine.
Mais bien sûr,
je te dis pas, ils vont bien titiller.
Ils sont à 32 points.
Ils sont à 32
points. Ouais, c'est vrai qu'ils sont bons un peu. Ils sont à 32 points. Non, mais Fribourg, ils sont à 7 points de Fribourg.
C'est quand même 4ème, top 4.
Mais là, en général, en Europe, les championnats sont vraiment
sans faute. Quoi.
En fait, ils ont mal commencé le championnat. Ils sont un peu plus rêvés.
Ils sont irréguliers quand même.
Ouais, voilà, ces dernières semaines.
Il y a Nourissen qui a été licencié. On va voir ce que ça va donner avec Kovac. Mais non, ça va être.
Après, s'ils accrochent une. Moi, je pense que c'est jouable. Hein,
mais Lille va récupérer Zegrova aussi. Lille va faire des choses. Hein.
Après, Lille, pour Lille, c'est jouable. C'est jouable aussi.
Il y a des joueurs qui veulent se montrer comme David, etc. Qui veulent partir.
Ouais,
et
Angel Gomez, c'est deux joueurs qui seront libres en fin de saison. Ouais, c'est là qu'ils vont faire monter leur cote.
Les 8e, pour moi, il y a des belles affiches.
Très belles affiches. Même l'Inter qui peut revenir.
L'Inter, ils ont des.
Feyenoord, je crois.
Feyenoord.
Ça va être une belle affiche.
PSV, Arsenal, PSV, ils peuvent embêter Arsenal aussi.
En plus, oui, PSV, franchement. Je suis très hypé par.
Je suis content pour les clubs hollandais qui se montrent un peu plus cette saison là déjà.
Bah, attention pour l'indice UEFA quand même, on n'a pas trop intérêt à ce que les clubs
la France est au rendez-vous aussi. Hein. On est là. Hein. Donc pour l'instant, après, là ça va juste sur les 8e, je pense, ton indice. Donc,
du coup, on va prendre. Bon, c'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après, mais on peut déjà prendre vos pronos. Hein.
Allez,
qu'est-ce que vous en pensez? C'est enregistré, attention.
Vas-y, on voit les matchs.
On va regarder.
Attends, en termes de qualif ou de.
Qualif
ou match aller?
Qualif.
Direct.
Okay. Oh, bon, allez, c'est parti.
Qualif.
Pas d'argument, on donne juste le nom. Ouais. Vas-y.
PSV Eindhoven, Arsenal.
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 Et toi?
Moi, franchement, PSV, ils peuvent le faire.
Mais bien sûr, ils peuvent le faire. Mais
on l'a dit en un mot là.
C'est enregistré.
On l'a dit en un mot. Okay. Bien sûr. Après, si tu veux qu'on développe.
Moi, j'aime bien. Mais... Moi, j'aime bien prendre des risques. PSV.
Ok.
Voilà. PSV. Real Atlético.
Real.
Atlético de Madrid.
Atlético de Madrid.
Atlético de Madrid.
Le cholisme.
Pas sur deux matchs.
Pas sur deux matchs.
En plus. Pas sur aller-retour.
Non, le cholisme n'est pas mort. Franchement. Après, ils ont un gros calendrier, l'Atlético. Hein.
Mais moi, je pense que là, on voit
on est mort,
Alvarez qui commence à marquer de plus en plus. Ce week-end, Griezmann, il fait encore deux petites merveilles qui amènent
les petits ballons au-dessus de la défense.
Celui qui amène le premier et la passive sur le deuxième, c'est magnifique. Correa qui montre qu'il est toujours un des quand même. C'est, ça fait un
des années. T'inquiète, pas besoin de te justifier. On a dit en un mot.
On a dit en un mot. Sinon, on va finir à minuit.
En un mot, merci. Merci, Alexandre. En un mot. En tout cas, Lucas. Non, merci, Alexandre, parce que c'est lui qui t'a dit en un mot.
D'accord, ok.
Voilà. Du coup, Lucas, Alexandre
Salut.
Et Salé, Atlético de Madrid et Maxence, Real Madrid. Okay.
Et toi? Mais là c'est bonne le question, présentateur qui question. Parle. C'est...
Bien évidemment, c'est le présentateur qui parle.
C'est le pronostiqueur.
Le pronostiqueur qui a vu le triplé de Mbappé qui est totalement sûr de lui, je suppose.
Non, mais franchement, en Ligue des Champions, j'ai déjà dit, j'ai pas envie de beaucoup parler, mais tout le monde la joue, mais on sait à qui elle appartient. Je pense que ça va se voir encore. Non, sérieusement. Je pense que le Real, ils sont favoris quand même face à l'Atlético de Madrid. Et je pense que le Real vont le faire contre l'Atlético de Madrid.
Sur un aller-retour, je pense aussi, ouais.
Sur un aller-retour, je pense.
Quoi qu'il advienne, le Real reste favori. Mais ça n'empêche pas que l'Atlético peuvent le faire.
Oui, oui. On y reviendra très rapidement. Paris Saint-Germain, Liverpool.
Ouh là là. Sans Liverpool. Hésiter, le Paris Saint-Germain.
Paris.
C'est du supporterisme, ça, les gars.
Qui? Moi?
Et toi,
je supporte pas le PSG. Ouais.
Moi aussi.
Paris Saint-Germain. Okay. Club Rouge, Aston Villa.
Aston Villa.
Moi, je vais dire la surprise Bruges.
Villa.
J'ai envie de dire la surprise aussi Bruges.
Moi aussi, je vais dire Bruges. Benfica, Barcelone.
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 Benfica.
Ok.
Dortmund. Lille.
Lille.
Le LOSC.
Lille. Dortmund. J'ai envie d'y croire.
Dortmund.
Lui, il est terre à terre. Il faut y croire un peu. Là.
Dortmund. Bayern. Bayern Leverkusen.
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 Je vais quand même dire le Bayern, même si je pense que ça sera serré.
Leverkusen. Feyenoord, Inter.
Inter de Milan.
Inter. Mais pas facile.
Moi aussi, facile.
Attends, faut que je réfléchisse. Franchement, là, c'est.
En un mot, en un mot.
Pense à l'Inter, moi, en tout cas. Pense à l'Inter. Je pense à l'Inter. Mais le Feyenoord va bien.
Pense à l'Inter,
je pense.
Non, l'Inter, vas-y.
Ok, je pense l'Inter aussi. Merci pour cette Ligue des Champions. On va se faire une petite pause, hein. On va se rafraîchir un peu et ensuite on va revenir bien évidemment avec la PL, cette semaine de PL avec des gros chocs. On a pu voir, bon, même contrairement que ça en déplaise à certains, c'est quand même un choc Manchester City face à Liverpool. Liverpool qui se sont imposés 2-0. On y revient juste après la pub.
Retrouvez Au bout du foot avec El Hadji Makalou. L'émission où on parle de foot comme entre potes. Chaque lundi en direct de 20h30 à 22h sur Mon Paris FM pour des débats passionnés, des analyses sans filtre et des moments de franche rigolade. Ici, le foot se vit et se discute avec authenticité. Rejoignez-nous pour vibrer, discuter et partager autour du ballon rond.
Un club éternellement loser, c'est pas nous qui le disent, c'est pas nous qui le dites, mais en tout cas, on a pu le voir. Arsenal qui marque encore le pas et qui n'arrive pas à mettre la pression sur Liverpool, qui perdent à domicile face aux Hammers. Ça n'était plus arrivé depuis, j'ai perdu la date, mais ça fait très longtemps que les Hammers ne s'étaient pas imposés à l'Etihad Stadium.
L'Emirates.
À l'Emirates Stadium, pardon, merci. À l'Emirates Stadium. Et on a pu voir aussi le derby, dans le derby londonien, bien évidemment. On a pu voir Manchester City à domicile. Encore perdre face à Liverpool et encore le petit pharaon Mohamed Salah, auteur d'un but et d'une passe décisif. Liverpool tout simplement qui ont 11 points d'avance sur leur dauphin. Chelsea qui n'y arrive toujours pas, hein. Chelsea, on les pensait un moment mettre la pression sur Liverpool et venir les gêner, pourquoi pas. Bah non, du tout. Manchester United qui arrache le nul à Everton après avoir été mené 2-0 à la mi-temps. Newcastle qui surprennent Nottingham en inscrivant 4 buts en 11 minutes, mais qui se sont fait peur parce que, attention, Nottingham sont revenus à 4-3 en fin de match, mais n'a pas pu arracher le point du match nul. Quelles sont vos impressions sur cette journée de Première Ligue, Maxence ?
Bah pour moi, on a la confirmation de ce qu'on savait déjà, c'est que Liverpool va être champion. Arsenal, depuis le mois de novembre-décembre, on disait avec l'écart qui s'était creusé, il fallait qu'Arsenal soit parfait jusqu'à la fin. Et en ne grillant plus aucun joker, en étant bon sur toutes les confrontations directes et en profitant de chaque faux pas de Liverpool, etc. On a vu que Liverpool a eu sa petite crise, ces 2-3 résultats un peu moins bons, sans être catastrophiques.
Oui, ils ont fait des faux pas.
Ouais, ils ont eu leur petite crise avec leurs 2-3 résultats un peu moins bons.
Mais, derrière,
mais Arsenal n'a pas réussi à en bénéficier en faisant un perfect, comme le faisait City les grandes années où on disait, ah ouais, ils ont enchaîné 15 matchs, 14 victoires, un nul, tu vois. Arsenal n'a pas été capable de faire ce genre de performance, donc finalement ça s'est tassé et puis ça finira comme ça, mais je pense que maintenant l'objectif pour Liverpool ça va être d'aller chercher un deuxième trophée. Ils sont en finale de Carabao Cup et ils ont la Ligue des Champions de l'autre côté, donc voilà. Et à noter quand même Salah, ce qu'il est en train de faire c'est extraordinaire, hein, au niveau stats. Il a 26-16 il me semble, ou 24-16, 24 buts, 16 passes D, donc il se dirige vers le 20-20 de Thierry Henry en 2003 ou 2004,
voire 30-20.
Mais j'ai regardé un peu, 20-20, c'est un truc qui a été fait une fois par Messi, je crois. Et sinon, jamais, en PL, juste une fois, en championnat, hein. championnat uniquement, juste une fois. Après, il a déjà fait des 30-18, tu vois. Mais le 20-20, c'est extraordinaire. Et être là si tôt dans la saison, c'est assez fou.
C'est un double-double, comme on dirait au basket.
Au-delà de parler de sa performance cette saison, c'est même sur le long terme, c'est sur toutes les saisons qui sont passées avec Liverpool, c'est exceptionnel.
Ouais, mais il a eu des petits coups de moins bien, oui. Genre des petites parties. Oui. Il y avait une période où il était un peu moins utile pour le collectif, la période avec Mané, où chacun jouait un peu pour
la
leur.
La fin avec Mané était un petit peu délicate.
Il y a peut-être une ou deux saisons.
Là, le mec, il est altruiste, il est leader, il est buteur dans tous les gros matchs. Dès qu'il y a un gros match, tu démarres à 1-0, c'est assez dingue.
Je ne dis pas le contraire, je te dis juste qu'il ne faut pas regarder que cette saison, mais c'est vraiment sur le travail, sur le.
Mais je trouve qu'il a pris encore une dimension.
Mais là, cette saison, c'est vraiment. Là, c'est tout droit pour le Ballon d'Or. Pour le... Même si c'est très loin encore, mais s'il continue comme ça.
C'est encore très loin parce que, comme beaucoup de joueurs le disent, c'est la deuxième partie de saison qui compte.
C'est la saison qui compte le plus, c'est vrai.
Mais ce matin, il y a la Coupe du Monde des clubs. Je ne sais pas si ça va peser dans la balance.
Ah, j'espère pas.
J'espère pas non plus. Mais
d'ailleurs, Liverpool n'y est pas, je crois.
Ah ouais?
Ouais, il y a un truc comme ça. Liverpool. Parce que c'est sur le classement de je sais pas quoi, ils y sont pas.
C'est pour ça que c'est la deuxième partie de saison, hein, parce que si Mbappé marque en finale et il gagne la Coupe du Monde des clubs, bah là, il n'y a plus de débat.
Ah, mais bon.
Quel que soit le joueur qui fait ça, je pense qu'il aura. Un joueur qui marche en finale de Ligue des Champions, il aura des chances d'avoir le ballon.
Après, faudra c'est Rodrigo.
Il faudra attendre cette compétition pour voir ce qu'elle vaut au niveau hype, etc. Hein, au niveau. Voilà. On peut pas s'exprimer là-dessus tout de suite. Il faudra attendre qu'elle arrive, voir ce que ça donne.
Mais qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Salé, de ces matchs en PL bien évidemment, Arsenal, hein, qui perdent à domicile
moi,
face
c'est,
au Hammer.
C'est surtout Arsenal face au Hammer, c'est qu'ils perdent le 1-0. Parce qu'Arsenal, là, ça commence à un peu, excuse-moi du terme, à faire chier. Parce que c'est ça que saison, on croit qu'ils peuvent le faire. Au final, ils se cassent la figure. Là, cette saison, t'as pas City, t'as que Liverpool. T'as pas, je veux dire, t'as pas 2-3 concurrents directs. T'avais que Liverpool à aller chercher. Et là, je pense que c'est foutu. Tu vois, et t'as aussi Newcastle Nottingham dont on en a parlé, gros match. Donc il a fallu avoir une remontada de Nottingham. Et en plus, ça s'est joué, c'est le top 5, ça aussi. C'est un match du top 5. Et c'était très important pour la suite du championnat. Nottingham aussi qui font grosse saison, tu vois. C'est, ça continue, même s'ils ont perdu. Hein. Ils ont failli le faire. Après,
Newcastle aussi.
Bah après, ça fait depuis la
saison dernière. Avec Alexander Isaac. Hein.
Depuis la saison dernière, Alexander Isaac, pour moi, qui est exceptionnel. C'est l'un des meilleurs neufs aujourd'hui.
Super encore fort. Doublé ce week-end. Ouais.
Bah, il est super fort, ce mec-là. C'est impressionnant. Là. En plus, il est grand, il est fin, il est à l'aise techniquement. Et franchement, Newcastle, là, ils ont une bonne pioche. Après, voilà, c'est les autres résultats, j'ai pas trop.
Sinon, comme tous les lundis, on peut passer une dédicace à Morim. Qui a réussi à tuer la saison du Sporting celle de United, donc bravo
surtout
à lui.
Surtout celle du Sporting, on peut faire quelque chose d'historique avec eux.
Ouais. Et il a tué ça pour passer de la 7ème place dommage. À la 15ème en première ligue, donc bravo à lui. Belle réussite.
Ouais, le 2-2 d'United.
Donc c'était pas si mal ce que Ten Hag faisait. Hein.
C'était pas, avec le recul qu'on voit ça, dur, en fait. On se dit que c'était pas si dégueulasse. Non. Mais là,
après,
avec un trophée aussi au bout. Hein. C'est ce qui compte. Hein.
Quand on voit tous les joueurs qui sont partis, ce qu'ils font, là, rien que la résurrection d'Anthony depuis qu'il est arrivé au Betis Séville, il y a un vrai truc qui
va
pas.
Ça va, c'est pas mauvais.
Rashford, c'est bon.
On va retenir
deux
le doublé de Asensio, mais notamment.
Deux passes décisives aussi. Ouais.
C'est Rashford qui change.
Bah, les mecs, ils revivent. Hein. Quand ils partent.
Et parce qu'en fait, c'est pour ça, le problème, c'était pas forcément le.
Enfin, le coach avait sa part de responsabilité, bien sûr.
Et c'est l'atmosphère, voilà, c'est l'atmosphère du.
C'est d'autres joueurs et le même coach, tu les mets dans un autre club sous le nom d'un autre club, je pense que ça marche.
Après, nous on dit atmosphère, mais il se passe des choses. Un club, c'est beaucoup de salariés, il y a des choses qui se passent en coulisses, etc. Et apparemment, vraiment, c'est délétère ce qui se passe au niveau sportif.
C'est ça.
Avec Ineos qui est rentré dans le truc.
Exactement, mais même avec l'entrée d'Ineos, ça s'est pas amélioré. Apparemment, ils n'ont pas coupé la logique des Glazers qui, pourtant, même. Déjà, Sir Alex Ferguson avait déjà dit les Glazers, ça va dans le mur. Il avait dit dès leur arrivée. On voit qu'une fois que lui il est parti, bah il avait raison. Et là, Ineos a l'air de suivre un peu le même modèle. Et effectivement, ça rend pas optimiste pour la
deuxième. 12 ans, ils vont pas remporter.
Donc voilà, ce que je dis, c'est qu'il y a des raisons. Ouais. C'est pas uniquement les joueurs qui sont sur le terrain maintenant la faute d'Amorim.
C'est un tout là, parce qu'avec tous les entraîneurs qui sont passés, t'en as pas un qui a réussi. Même Emery, il y était.
Mais même Mourinho qui gagne l'Europa League, il peut pas rester. Il y a pas eu de continuité.
Après, je veux bien la
Mourinho, même quand il termine deuxième avec United, il le dit bien, il dit je pense que terminer deuxième ça vaut beaucoup de titres avec United, avec cette équipe de United, comment ça a été difficile de terminer deuxième et nous on le voyait pas comme ça, on disait c'est normal qu'il termine deuxième, mais il a quand même terminé deuxième de PL et il a dit vraiment terminer deuxième et je pense que c'est plus des conditions qu'il veut parler, parce que Cristiano Ronaldo même il est parti dernièrement et il est revenu même sur les infrastructures là-bas dans le club. Il a dit ça n'a pas bougé. Depuis 2008 à maintenant, il n'y a rien qui a bougé. Non, mais ça reste quand même extraordinaire. Parce que quand tu te dis ça reste United et ça reste l'un des clubs, si ce n'est le club le plus riche du monde. Moi, excusez-moi, mais pour moi, dans les salles d'entraînement, dans les trucs comme ça, ils ont les derniers cris.
Je
ne
sais pas si vous avez vu, aujourd'hui, ils ont coupé la cantine des salariés. Les salariés ne peuvent plus manger à la cantine United. À United.
Ah ouais.
Coupure de budget.
Et surtout qu'ils veulent en licencier encore. Je crois qu'il y a eu une centaine de licenciements au début d'année.
Quand t'en es là,
je crois qu'il y a eu 200.
Là, c'est là que tu vois que l'équipe, elle n'arrive pas à fonctionner.
Je crois qu'il y a 250 salariés.
À un moment donné, il y aura un dépôt de bilan, c'est pas possible.
Après, au-delà de l'aspect politique, etc., encore, hein. ça vaut pas le fait de finir 15e de PL. C'est pas possible. Oui, avec l'effectif que t'as, les joueurs que t'as, tu dois quand même faire mieux. Même si t'es, après, oui, tu peux pas faire une comme saison, mais 15e de PL, mais non, tu mais te fais fait, balader c'est, par c'est, Crystal Palace.
Ça s'explique.
Ah, mais t'aimes ça l'ambiance, t'as pas de condition de travail, t'as pas envie de travailler.
C'est pas surprenant quand tu vois ça.
Quand les joueurs sont plus heureux, on voit bien, ils arrivent à mieux s'exprimer sur le terrain.
Regarde Anthony, s'il était à United, t'as des infrastructures qui sont pas sérieuses, je sais pas, moi je connais pas, je suis pas à l'intérieur, mais le staff ou je ne sais quoi qui est pas très performant ou autre, ça fait la différence.
Et là, en fait, il faut savoir, c'est explosent. Des humains.
C'est des humains.
Même le fait de rigoler tout le temps avec le préparateur physique ou avec même celui qui va te ramener à manger le midi ou qui sert à cette table-là, etc.
T'as envie de te battre
tu vois que lui, il est plus là, il a ses trucs, il a des problèmes parce que le gars, il peut plus manger avec vous, il ne peut plus si. C'est des petits détails qu'on fait pas spécialement attention, mais je pense que ça peut porter. On justifie pas le fait qu'il soit 15e, hein. Bien évidemment,
quand ils sont
sur
l'expliquer.
Voilà, on essaye en tout cas de trouver quelques explications qui pourraient.
En tout cas, pour moi, ça reste un choix catastrophique. Ah ouais,
l'environnement,
doublement,
c'est important.
Même, doublement même, catastrophique.
Et United qui gagnait des matchs avec Van Nistelrooy.
Oui, ils auraient pu le laisser, ancienne gloire du club.
Jusqu'à la fin de saison au moins, et prendre Amorim, voir ce qu'il faisait jusqu'à la fin de saison.
Il aurait pas fait pire, de toute façon, Van Nistelrooy.
Bien sûr.
Et il se plante à Leicester, je crois qu'il a pris 4-0 par Brentford ce week-end. Lui aussi, il a du
mal. Leicester, il est une sale équipe. Hein. Enfin,
ouais,
c'est
non, ils vont descendre,
mais...
je pense aussi. Ouais.
Ah, Leicester, ils n'ont pas renouvelé depuis le départ de Mahrez, N'Golo Kanté, etc. Ils
c'est toujours Vardy en neuf. On l'adore, Vardy, mais...
Ouais, avec les Red Bull.
Il a fait une grosse saison l'an dernier en Championship encore, mais effectivement, là, le niveau a l'air un peu élevé pour cette équipe de Leicester.
Du coup, Chelsea, qui n'y arrive pas aussi, on peut parler un peu de Chelsea, non ?
Tu veux dire quoi sur eux ? Ça fait combien d'années que c'est United Beast, c'est
un peu mieux quand même.
C'est un peu mieux,
parce qu'ils ont recruté ces dernières années, ils ont mis des gros millions.
Oui, c'est obligé d'être un peu mieux.
United aussi a mis des gros millions, hein. Attention,
Chelsea,
hein.
Chelsea, oui, t'as vu le nombre de joueurs recrutés côté Chelsea ?
Ah oui, non, c'est largement plus.
Ils ont 3 joueurs. Ils essayent un 11.
United, c'est pas les Spurs non
plus. Ils essayent un autre
11. Je crois qu'ils ont 5 11. Ils peuvent mettre.
Ils sont plus cohérents.
Ils sont quadruplés.
Ouais, ils sont plus cohérents, surtout quand tu vois où ils partent au début de saison, quand l'entraîneur, là, quand il est arrivé. Oui, voilà, Maresca, il a dit j'ai 30-40 joueurs à l'entraînement, je suis obligé d'en mettre 20 à côté et de m'entraîner avec 20.
Mais lui, il a tout de suite coupé.
Ouais, mais il a raison.
Il a bien fait.
Et parce que quand tu vois, mais imaginez, on a tous joué au foot, imaginez, tu rentres dans un vestiaire, t'es là, t'as 40 joueurs qui ont tous des gros salaires, qui sont.
T'en as 8 à ton poste,
des gros égos. 8 à ton poste, des gros égos, ça n'a aucun sens. C'est pour ça que Chelsea, c'est un peu différent de Manchester United quand même. Mais. Après, c'est vrai qu'on a cru qu'ils étaient bienvenus.
En termes de joueurs de qualité, et je pense que.
Ils en ont plus. Bah,
voilà,
ils en ont plus.
Et ce qu'il y a autour aussi, parce que là, à part Bruno Fernandes qui ne s'essouffle pas vraiment à United, le reste, ça tourne. Là, il y a Amad Diallo un peu. L'année dernière, c'était Kobbie Mainoo. Mais là, vous voyez, il n'y a pas de Garnacho l'année dernière aussi.
Après Diallo, t'es blessé 3 mois. Non, mais
ouais, il est blessé, Diallo.
Zirkzee, c'est difficile.
Ouais, mais il récupère des mecs en qui on croit quand ils arrivent, tu vois. Un Lenny Yoro dans un autre contexte.
Oui,
je suis sûr qu'il fait une super saison, par exemple.
Non, mais Lenny Yoro fait des bons matchs.
Ah, pas que.
On lui avait proposé. Il a refusé.
Comment il aurait dû.
Il refusait pas le temps.
Après, je pense que ces mecs-là, c'est pas que leur choix aussi. Il y a tellement d'entourage, de mecs qui croquent autour. On sait qu'United, sur les primes aux agents, etc., ils sont pas les dernier, donc si tout le monde lui dit tiens, moi si tu y vas, je prends 1 million, moi je prends 1 million, ton frère il prend 3 millions, ton père, ta mère, c'est etc. Vrai. Le mec il y va, il suit le mouvement, mais je suis pas sûr que ce soit sa décision.
Après, il est pas si mauvais que ça, lui.
Non, non, mais il est dans un marasme.
Mais voilà, à cause, en fait, il arrive avec tout ce qu'il a, sa blessure aussi derrière. Ça ne facilite pas.
On voit sur certaines phases de jeu les qualités des joueurs, même Dorgu, le arrière gauche qui vient d'arriver. On voit qu'il a de la qualité, c'est un bon joueur, mais collectivement, il n'y arrive pas. Il manque un truc. Et c'est sur ça, je pense, que ce sera le plus gros défi d'Amorim s'il est amené à rester au-delà de cet été. C'est de redonner vie à cette équipe, de redonner des confiances.
Il faut dégraisser.
Oui, bien sûr. Mais tu vois, on l'a dit pour Chelsea aussi. Et Chelsea, ils n'ont pas totalement dégraissé, mais au moins, il y a eu des choix.
Ils ont quand même dégraissé un petit peu.
Ils ont dégraissé un petit peu, mais il a dit même si on ne dégraisse pas, je vais avoir un 11 pour l'Europa League Conférence et un 11 en championnat qui est quasiment tout le temps le même. Et on voit que, on va dire au milieu, Lavia, Enzo et Caicedo, c'est les joueurs qui vont
tenir
le terrain.
Mais parce qu'à mon avis, on le laisse travailler ou on lui laisse l'opportunité de prendre des décisions. Parce que Amorim, moi je suis d'accord, hein, pour moi son choix il est très mauvais d'être allé à United, surtout à ce moment-là. Mais je veux dire, à mon avis, le gars, on le laisse pas travailler. Ça doit être
il est arrivé, en plus on lui a dit maintenant tu t'occupes que des trucs et plus des recrues.
Le mec,
ça n'a aucun sens, par exemple.
mis son système en place avec les pistons, etc. Mais le système, il n'est pas du tout adapté à son effectif. Donc, je sais pas ce qu'il a voulu faire.
Je pense qu'ils vont encore... Il a pas le droit de
choisir. Ouais, il peut-être envoyer un message parce que il a pas le droit de mettre son nez dans le recrutement.
Mais après, il arrive en décembre, il va pas mettre le nez non plus.
Non, mais non, mais même si tu peux dire en décembre. Attends, excuse-moi, mais quand c'est ça où il est arrivé à ses Milan, crois-moi, il a dit je veux lui, je veux pas lui, je veux pas lui. Non, mais même si on voit le résultat, non, mais en gros, pour dire que quand un joueur, quand il y a un joueur qui arrive, un entraîneur arrive dans certaines conditions, on va le mettre à l'aise. Et là, dès que lui il arrive, on lui dit mais tu t'occupes juste de l'effectif que t'as. Les recrutements, c'est pas toi, tu te sers. Maintenant, c'est fini ça. Or qu'avant, Erik ten Hag pouvait mettre son nez dans le recrutement. Maintenant, on a vu, il a récupéré tous les joueurs de l'Ajax.
Et peut-être pour ça que ça leur a pas plu.
Oui, c'est possible.
Moi,
mais
faire
quand même,
bâtir une politique sportive, une politique sportive autour d'un entraîneur, je trouve pas ça sain pour un club.
Après, parce que Paris, c'est exactement ce qu'ils font. Par contre,
ouais, bien sûr.
Donc c'est juste du court terme, parce que tu sais que dès que l'entraîneur il saute, celui qui va arriver derrière, il aura d'autres exigences. Donc il y a des joueurs qui seront pas dans son projet.
Puis c'est un peu différent parce que Luis Enrique, tu sais qu'il est engagé sur le long terme. Tu sais qu'en Ligue 1, ça va toujours bien se passer. Non mais en Ligue 1 ça va bien se passer, il va pas se faire virer demain pour manque de résultats, tu vois. Ça va, tu sais qu'il va faire ses 2-3 ans, son cycle, et puis voilà, tu bosses là-dessus. Mais oui, je suis d'accord que c'est du court moyen terme. Mais tout basé sur un entraîneur qui peut, en plus comme Amorim, qui peut te filer entre les doigts en un mois comme il l'a fait au Sporting, ça me donne pas envie, moi, personnellement.
Tu l'as vu là, devant 3 mois, on a l'impression qu'il a pris 10 ans. On a l'impression qu'il n'y croit plus même dans
Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que les supporters.
Tu vois, c'est déclat d'après match.
Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas une si grosse pression populaire que ça.
Ils sont résignés.
Ils sont résignés, mais c'est quand même très bizarre parce que les Anglais, ils sont quand même.
Ça fait 10 ans qu'ils coulent très lentement, donc chaque année est plus décevante que l'autre.
Et c'est quand même bizarre. Là, tu es quand même 15e de PL au bout de 25 journées. Je veux dire, il y a plein d'autres clubs où Barcelone, Madrid ou je ne sais quoi, où quand il y a un résultat, les gens sont cinquièmes, déjà il y a toute la ville qui sort. Là, t'as l'impression que Manchester United,
ils ont fait 10 ans aussi à être très très faibles.
Ouais, mais c'est le meilleur championnat du monde, c'est la première ligue, c'est difficile, c'est pas la même chose.
Et c'est là que tu vois que la première ligue, c'est très compliqué.
Ouais, c'est pas pareil. Parce que, regarde Nottingham qui joue le maintien, normalement.
De là être 15e, les gars.
Et... Mais en fait c'est moi je suis d'accord avec toi quand tu dis Manchester United
Brighton,
15e.
Ils sont combien
tièmes ? Je sais pas.
Ah, Brighton l'ont mis 3-0.
Quand
tu dis
quand tu vois le classement, tu dis Manchester United 15e, c'est n'importe quoi, ils sont 15e, c'est honteux, c'est inadmissible, c'est vrai. Mais en fait quand tu vois les feuilles de match, tu te dis en fait c'est justifié le fait qu'ils soient 15e parce qu'il y a rien.
Tu vois contre les équipes contre lesquelles ils se prennent des dérouillés,
tu vois les feuilles de match et les matchs, en fait tu te dis en fait ce club il y a rien. Donc c'est normal qu'il y ait des équipes qui travaillent mieux donc qu'ils soient devant au classement. Mais bon, c'est Tottenham, pareil. Tottenham, c'est vraiment compliqué aussi. Tottenham.
Quoi, Tottenham, ils ont rien gagné. Ça fait comme.
Je suis d'accord, mais Tottenham.
Mais là, on parle même plus de gagner. Là, on parle d'exister.
Quand tu dis top 6 anglais, c'est Tottenham.
Non, mais je veux dire, ça, c'est des équipes. C'est bon, ça commence.
Oui, mais aujourd'hui, c'est quoi votre top 6 anglais ? Allez, Maxence.
Ça n'existe plus.
Non, mais ça n'existe plus. Mais
c'est dur de donner.
Déjà, t'as City. Pour moi, t'as City, Arsenal, Liverpool, Chelsea. C'est les 4 gros. Et après,
Chelsea pendant des années, ils étaient 5e, 6e.
Ouais, mais pour moi, faut compter sur eux là, dans les 4, 5.
Après, t'as les autres équipes comme Nottingham, Aston Villa,
Newcastle,
bien sûr.
Newcastle, ils sont
au-dessus. Je suis désolé. Aston Villa, on les met où ? C'est plus top 6, il a raison.
C'est vrai, Aston Villa aussi, c'est vrai.
T'as West Ham aussi qui fait une bonne saison, une mauvaise.
Pour te dire, j'ai plus confiance en Aston Villa que Chelsea.
Cette année, ouais, je suis d'accord.
Bien sûr. Bah, la preuve, hein, où ils sont Aston Villa, où ils sont Chelsea en Europe. Donc voilà, tout simplement.
Oui, Aston Villa, Chelsea, ils sont à un point de différence en première ligue.
J'ai plus confiance en Aston Villa que Chelsea. Regarde leur calendrier, Aston Villa, ils ont joué la Ligue des Champions. Chelsea joue la conférence contre des bras cassés. Ils envoient leurs 6e, 11.
Du coup, ils jouent chaque semaine.
Ouais, voilà, c'est ça.
Chelsea.
Parce
que là, en plus, ils viennent se faire éliminer en FA Cup ou EFL Cup.
EFL Cup.
EFL Cup, ils se sont fait éliminer par Brighton.
Ouais.
Ils se sont fait éliminer par Brighton, là. Du coup, voilà. Je tiens à rappeler le classement. Liverpool avec 64 points et 11 points d'avance avec un match en plus. Deuxième, Arsenal avec 53 points. Nottingham Forest avec 47 points. Troisième, Manchester City avec 44 points à égalité avec Newcastle, 44 points. Bournemouth qui sont sixième avec 43 points. Chelsea avec 43 points aussi, septième. Aston Villa avec 42 points qui sont huitième. Brighton, 9e, avec 40 points. On est obligé de descendre un peu. On voit Tottenham qui sont 12e, avec 33 points. Ça va être compliqué pour Tottenham, même le big, le 7, hein, parce qu'ils ont 10 points de retard quand même sur le top 7. Manchester United, maintenant, je pense qu'ils jouent plus le maintien. Hein, avec 30 points, c'est très, très difficile.
Bon, après, derrière, les 3 décrochés le sont vraiment. Donc,
ils sont à 17.
ils ont aucune chance de descendre United.
Oh, il y a 13 points quoi, il y a 13 ouais, points de différence.
C'est impossible.
Oui, normalement, mais mathématiquement, c'est impossible, mais voilà quoi. Ipswich qui sont à 17 points, égalité avec Leicester, 17 points, et Southampton qui ont 9 points, et c'est très difficile pour Southampton.
9 points, c'est waouh. Wow. Ouais,
9 points. Ah, ils enchaînent
9 points en 24 matchs là,
c'est 23, imagine la saison de fou.
Je suis en train de te dire Montpellier, c'est cata ce qu'ils font alors qu'ils ont 15 points, ouais, et t'imagines 9 points. Ouais, et en plus t'as quoi, t'as 18 matchs au moins avec,
c'est vrai, mais bon,
après, t'as 18 confrontations là.
Après n'oubliez pas, on se dit 9 points mais c'est en PL. Moi, 9 points PL, pour moi, en Ligue 1, ça peut en valoir 15.
Ah oui, c'est pas comparable. 15, 20. Mais après, tu prends le budget du dernier de PL, voilà, c'est le budget du 5ème de Ligue 1.
Ouais, tu vois, c'est ça. Ouais,
c'est ça qu'il faut voir. C'est le budget de Nice ou de Lens.
Après, vous voyez comment ils surévaluent leurs joueurs en première ligue.
Bien sûr. Et mais les salaires qu'ils leur mettent.
Wilson, je crois, ils l'ont acheté 77 ou 80 millions.
Mais quand tu vois qu'il y a un Eli Kroupi, qui est un des meilleurs joueurs de Ligue 2 à Lorient, le mec, il a le choix entre Lyon et Bournemouth, il va à Bournemouth. Ouais. Mais alors que Lyon, c'est quand même un des top 4, 5 Ligue 1 avec qui tu peux jouer une Coupe d'Europe, tu peux te développer, jouer des top matchs en Ligue 1. Le mec préfère aller à Bournemouth. Ouais,
là, ils sont 6ème.
Les salaires sont pas les mêmes.
Mais l'année prochaine, Bournemouth, ils peuvent être 15ème. Tout le monde s'en fout, tu vois. Mais juste, il va gagner 4 fois le salaire que Lyon peut lui offrir. Donc,
il sera exposé en première ligue. Donc, ça veut dire que s'il marque contre Chelsea, Chelsea peut vouloir l'acheter.
Exactement. C'est ça, juste.
Non, mais c'est ça. Non, mais c'est
un milliardaire con, tu peux dire, lui, je mets 60.
Ouais, mais c'est ça, parce que t'es en première ligue. C'est ça aussi. Donc, faut pas voir que le salaire de l'argent. Moi, je pense que.
C'est pour ça que c'est incomparable avec Montpellier, tu vois.
Moi, je pense que demain, tu vas en première ligue. T'es quasiment sûr, toutes les deux semaines, t'as un gros choc où le match il va être regardé. Si t'es bon, on peut te recruter.
Bien sûr, bien sûr.
Pour moi, c'est vraiment des séances de recrutement à chaque fois.
Non,
chaque
je suis d'accord
match.
Avec toi. Moi,
puis quand tu vois les petites vidéos, je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, les petites vidéos des mecs, des joueurs qui montrent leur quotidien en tant que joueur de première ligue.
C'est fou, ouais,
c'est extraordinaire.
Ça existe en Ligue 1 aussi. Hein.
Crystal Palace. Ouais, mais c'est pas la même chose.
Mateta, ça fait Mateta.
Ouais, Mateta. Mais alors que le mec, il joue que à Crystal Palace. Mais c'est extraordinaire. Comment ils sont pris. Ils sont pris en charge. De 9h à 18h, ils sont pris en charge de A à Z. Tout est fait. Aux petits soins.
C'est complètement dingue. Kiné, après, voilà.
Alors que à Montpellier, t'as Savanier, il est au Grec à midi, il est sur le terrain à 14h.
Il va voir Marseille jouer à 1h30 et le soir.
C'est vrai que TikTok l'a fait avec Neil Maupay à Marseille. Ils l'ont suivi pendant une journée et effectivement, le quotidien il n'a rien à voir avec celui de Mateta. J'ai vu les vidéos.
Bien sûr, Mateta est un plomb quand tu vas en Angleterre.
On parle juste de Crystal Palace. Hein. Je ne parle pas de Liverpool.
Et que tu parles de l'OM en plus. Donc imagine à Angers, à Montpellier.
C'est là, des fois, on parle d'institutions de grands clubs. Quand on te prend en charge comme ça, je pense que les clubs anglais ils ont tout compris sur le fait de développer la culture club et tout.
Ça fait la différence. On en revient tout à l'heure quand on parlait des conditions de travail. Les conditions de travail. Ça fait la différence.
La ville aussi, elle
fait la différence.
Mais oui, on se demande pourquoi les mecs ils se barrent pas de Tottenham.
Aston Villa, c'est Birmingham.
Mais Tottenham, ils ont des
Tottenham, c'est magnifique. C'est extraordinaire, Tottenham.
Avec José Mourinho là.
En plus, tu vis à Londres et tout, la vie elle est trop belle.
Moi, j'ai les clubs de Londres parce que va vivre à Birmingham, Manchester ou Liverpool, c'est pas pareil.
Everton.
Mais moi, je signe à Tottenham, faites-moi 6-10 ans si vous voulez, je reste là-bas.
C'est comme au PSG, on regarde les infrastructures du PSG, ce qu'ils ont mis en place et la ville en elle-même. Les quartiers où les joueurs peuvent habiter.
Non, mais le nouveau centre du PSG, en tout cas, il est incroyable.
Il est incroyable.
À Paris, c'est mis au niveau.
T'habites dans le 7-8 vers là.
À Saint-Germain,
tu sors à courir avec ton chien le week-end.
Et même au-delà de ça, les appartements dans les environs, tu sais, c'est magnifique.
Et puis après, le samedi
soir, c'est une mission immobilière.
Non, mais c'est pour dire que l'environnement, c'est quand même 4
ans. Je pense qu'on a compris. On invite en tout cas chacun à aller voir et de faire sa propre idée. On a dit, c'est quoi le. Le site,
c'est les vidéos de la première ligue en
sur les réseaux sociaux.
Voilà. Ils ont fait une vidéo sur Mateta et là
Hugminson en a fait une aussi, enfin voilà, vous cherchez sur les réseaux,
vous allez trouver. On va se faire une petite virgule avant de revenir pour le championnat d'Espagne, le Real Madrid qui s'impose 2-0 face à Gérone et reste à hauteur du Barça qui se sont imposés sur le même score face à Las Palmas, Atlético de Madrid qui enchaîne avec un doublé de Julian Alvarez et qui s'impose 3-0 face à Valence. On y revient après la petite virgule. Ah. 21h47, si vous venez de nous rejoindre dans les locaux de Montpellier FM, nous sommes installés et nous allons bientôt clôturer cette émission. Le Real Madrid qui s'impose 2-0 face à Gérone, le Barça qui s'impose aussi 2-0 face à Las Palmas. On a pu voir, hein, c'est vrai Maxence, moi ça m'a fait penser, ces matchs-là m'ont fait penser à ce que tu disais la dernière fois sur le plateau, que... c'est sûr que si on traite mal un arbitre, derrière, les arbitres, etc., ne vont pas mieux te traiter. Et je pense que c'est la vérité. On a pu le voir hein, sur un but refusé de Las Palmas, du Rayo Vallecano juste avant aussi, d'une main pas sifflée là avec Las Palmas, avec le Barça. En tout cas, on voit quelques décisions arbitrales qui font jaser un peu en Espagne. Bon, en Espagne, c'est vrai que c'est pas les arbitres qui vont venir arbitrer les phases éliminatoires de Ligue des Champions, en tout cas dans le dernier carré, etc. On préfère privilégier je sais pas d'autres.
Franchement, c'est souvent parce qu'il y a des Espagnols aussi.
Oui.
Vu qu'il y a des clubs espagnols, il peut pas y avoir d'arbitre espagnol.
C'est vrai, mais aussi. Attendez.
C'est là que ça laisse la place à Turpin.
Oui. Non, mais attendez. Pour vous, quels sont les meilleurs arbitres?
Les Anglais, moi. J'aime bien les Anglais.
Les Anglais, on a toujours dit les Anglais.
J'aime bien Clattenburg, l'Anglais.
Les Italiens aussi, ils sont pas mauvais.
On a une bonne réputation de l'Angleterre sur l'histoire, au niveau historiquement parlant.
L'Italie,
on a une mauvaise image au niveau de la corruption.
Oui, ça c'est déjà différent. Après, quand
tu vois ce que je veux dire.
Non, mais même ça les joue. Des arbitres plus exotiques, l'image de Marcignac par exemple, je crois qu'il est polonais. Enfin, tu prends toujours des arbitres, les meilleurs arbitres de chaque pays, ce sera toujours mieux parce qu'il y a un gros problème de l'arbitrage en Europe. Franchement, honnêtement, là c'est une catastrophe. En Espagne, en France.
Parce que personne ne sait comment utiliser la VAR.
Et ça prend de cohérence aussi.
Cohérence, il n'y a pas d'uniformisation, donc il y a un mec qui va siffler un truc. Exactement. La semaine d'après, on va siffler le contraire. Et ça met le discrédit sur toute la profession.
C'est que les gens comprennent que en fait, les arbitres, c'est des humains, en fait, tout simplement.
Exactement.
Et je vous dis ça parce que moi-même, je suis arbitre le week-end. Les arbitres, c'est des humains, mais le problème, en fait, c'est que. Le problème, en fait, il vient vraiment de la VAR. Parce que. Qu'on soit pour ou contre la VAR, c'est même pas ça le débat. Le problème, en fait, c'est qu'à partir du moment où t'as introduit un outil comme ça, à chaque décision, les gens vont tout le temps, tout de suite, réclamer la VAR. Et le problème, c'est que si la VAR, elle prend une décision qui, on a l'impression, qui est mauvaise, en fait, ça décrédibilise tout le corps arbitral et tout le système arbitral.
Problème, c'est que c'est pas que des impressions. Là,
je suis d'accord avec toi.
Il y a deux exemples avec Paris. Je sais plus, ces dernières semaines, il y a eu deux buts marqués où finalement l'attaquant n'est pas hors jeu.
Il est hors jeu. Et dans le cas,
et pourtant, City, nous, on le voit tous. Un ralenti, on le voit.
Contre City, le but, la course de Nuno Mendes, il n'est pas hors jeu. Et je sais plus, là, ce week-end, le week-end dernier, Paris a encore eu un but qui a été refusé pour hors jeu.
C'est incompréhensible, ça, tu vois.
Et ça, pour moi, le problème aussi, c'est la parano globale des supporters. C'est que franchement, tu parles à n'importe quel supporter de n'importe quel club, il va te dire moi, mon club, il est sous-estimé. Il est
Je pense que c'est lié, tu vois. Quand on te dit que c'est scientifique et qu'il y aura plus d'erreurs, forcément, si on fait des erreurs, c'est qu'il y a un complot contre toi. Oui, alors que quand il y avait ce truc plus humain, même moi,
de dire il s'est trompé.
Mais oui, si l'arbitre.
Alors qu'en fait, c'est juste
de
l'interprétation, c'est que toi et moi, on se met devant un écran, on nous montre la même action, peut-être qu'on va pas décider la même chose. Toi, tu vas dire, moi, je le vois comme une faute, moi, je vais te dire, je le vois moins comme une faute. Ça joue.
Après, sur Marseille, c'est un peu une stratégie depuis le début de l'année, moi, je trouve, de remettre en cause l'arbitre.
Excusez-moi, mais on va pas.
Non, mais t'as raison, si on parle juste de l'arbitrage en Espagne, parce que c'est quand même important, c'est que. Là où t'as raison, je suis désolé, mais on l'avait tous remarqué que le Real Madrid était avantagé ces dernières années. Non, mais c'est vrai. Non, mais faut arrêter. Était avantagé ces dernières années sur l'arbitrage. Et là, dès que tu vois que le Real monte, fait front et c'est apparemment le seul club. Écoutez, fait front contre les arbitres. Et ben là, directement, tu vois que là, ils ont commencé à avantager un peu le Barça sur des décisions. Ils ont commencé à avantager l'Atlético, etc.
En tout cas, dernièrement, si vous regardez le championnat et les matchs, moi je vois contre le Barça, contre Las Palmas, contre le Vallecano, t'as vu
comment
c'est différent.
Franchement,
Anti-Flick, mais t'as vu Anti-Flick ce qu'il dit? Ce sont des humains, les arbitres sont des
caresses. Ça revient à la semaine dernière.
C'est ce que je disais.
C'est pour ce que je dis sur Longoria en début de l'émission.
Non, Anti-Flick, il les a caressés.
C'est une mauvaise habitude.
Ce sont des humains, sans eux on ne peut pas jouer. Mais quel arbitre même après, va lui mettre un carton jaune
c'est ça, en fait.
Même si
demain c'est toi, alors que là maintenant ils sont beaucoup plus durs avec la presse, tu vas pas vouloir faire un truc bien pour la personne qui t'a insulté, tu vois. C'est Stinat, l'arbitre de l'OM, là il s'est fait crever ses pneus. Sa femme elle a pas eu sa voiture, etc. Mais tu viens arbitrer le match, t'as pas envie d'arbitrer.
T'as vu l'arbitre qui a mis le rouge à Bellingham?
C'est normal,
ils ont menacé de mort sa famille, ses frères et sœurs, etc.
Donc tu te dis la semaine prochaine
il avait été suspendu
pour
franchement quand même lui il a abusé quand même sur ça ne vaut pas tout ce qui a été fait.
Ça peut valoir un...
Non, ça ne vaut pas.
Non, ça peut valoir un carton rouge, moi, je veux dire. Si tu...
Non, mais question. Mais non, même pas Bellingham, je te parle au-delà de ça, du match en lui-même. Le carton... Parce que sur d'autres choses, tu vois, sur beaucoup de choses, tu fais pas les choses bien.
Certes, c'est des humains, Mais qu'au bout d'un moment, en fait, ce qu'on demande aux arbitres, c'est aussi de la transparence. C'est qu'aussi on puisse comprendre leurs décisions, qu'il y ait une harmonie. Là, t'as vraiment l'impression, moi je prends l'exemple du championnat d'Espagne parce que je le regarde toutes les semaines. Tous les matchs, même pas que Barcelone, Atlético, tous les matchs, il y a un fait de jeu. Ouais. Tous les matchs, le gars, il y a un tirage dans la surface, il y a un placage.
Dans tous les matchs, il y a des faits de jeu. Bah c'est
ouais,
juste
ça. Monaco Ligue des Champions. Non, t'as pas compris ce que je veux dire. Bien évidemment qu'il y a un fait de jeu. Bien évidemment qu'il y a un fait de jeu. Mais ce que je veux te dire, c'est que les décisions ne sont pas prises pareilles.
Oui, bah oui, c'est ce qu'on disait au début, il n'y a pas d'uniformisation, il n'y a pas de cohérence dans les décisions.
Ça, c'est un véritable problème.
Mais après, honnêtement, ça devient inarbitrable. Demain, tu me dis, aussi, va arbitrer un match avec des champions, tu vois, c'est impossible de faire un bon match.
Quand t'as les présidents, ils sont là, ils descendent, ils te crient dessus et tout.
Et d'un côté, tu siffles penalty, tu les siffles pas, tu vas te faire.
Excusez-moi, on arrive à la fin de l'émission. On va se recentrer là-dessus, mais je vous promets que semaine prochaine, en tout cas, on prendra le temps de parler de la LFP et on prendra le temps de parler aussi de l'arbitrage en Europe. Et là, bien évidemment, faut qu'on parle aussi du Real Madrid qui sont imposés 2-0. Très rapidement, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Maxence, de tous ces résultats en Liga?
Bah, c'est super intéressant de suivre le mano à mano, enfin mano à mano à 3 du coup, entre Atlético, Barça et Real. Là, des 3, en ayant vu les 3 matchs, ceux qui m'ont le plus impressionné, c'est Atlético. Atlético qui a été franchement super impressionnant. Je voyais venir un peu le bourbier, et franchement, ils ont pris le match par le bon bout. Et après, mention au but de Modric quand même pour le Real, qui est extraordinaire. Le but, il est vraiment magnifique.
Je l'ai commenté en direct, je vous l'ai envoyé même. J'ai vu, personne n'a réagi. J'ai dit, bon, ils doivent pas être dans le coup.
Mais... j'avais pas le téléphone sous les yeux. Mais le week-end Longoria, j'ai essayé d'éviter un petit peu tout ce qui était réseau, WhatsApp, etc. Mais voilà, donc pour l'instant, pas de faux pas à signaler. Les 3 se suivent et puis ça va nous faire vibrer jusqu'au bout. C'est cool.
Merci.
Ouais, bah pareil, franchement, le mano à mano, il est. Enfin, à 3 du coup, comme il a dit, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant parce que là, il y a 2 mois, 1 mois, 1 mois et demi, tu nous posais la question de qui va gagner la Liga, est-ce que Barcelone a perdu la Liga et tout. Il y en avait qui t'avaient dit oui, non. Au final, ils reviennent, ils sont leaders. T'as le Real qui est juste derrière, l'Atlético qui est juste derrière, etc. Enfin, c'est vraiment intéressant. Et franchement, bah, après là, Barcelone, c'est de plus en plus compliqué en Liga en ce moment. C'est de plus en plus compliqué parce que les équipes leur rentrent dedans et ils ont du mal en ce moment à trouver la solution. Et on le voit, il y a moins de scores fleuves, etc. Donc c'est plus compliqué. Après, franchement, je sais pas si vous avez vu, mais les 3 équipes, les 3 concurrents directs au titre, ils ont tous les 3 un gros gros calendrier à venir. Franchement, ouais. Bah t'as la Coupe du Roi. Bon, le Real jouera au Osasuna, je crois.
Sociedad,
non. La Coupe du Roi, il joue.
Sociedad.
Sociedad, ouais. Sociedad. Mais sinon, il y a un Barça Atlético. C'est match aller-retour en plus, les demi-finales de Coupe du Roi. T'as la Ligue des Champions, etc. Donc ça va être vraiment très 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 intéressant de voir qui va gagner. Et c'est vraiment limite impossible de pronostiquer. Franchement, c'est très compliqué de savoir qui va finir par remporter ce championnat. Et pour terminer, franchement, bah, j'ai l'occasion de regarder pas mal de foot comme vous. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le niveau de la Liga cette année est vraiment très 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 intéressant. T'as vraiment des équipes qui sont incroyables. Il faut pas enterrer aussi l'Athletic Bilbao, qui est seulement, je crois, à 3 ou 4 points de l'Atlético Madrid.
Oui, oui.
Ça peut aller très vite.
C'est pour moi les favoris de l'Europa League.
Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Donc franchement, là, le championnat de Liga, il est vraiment relevé, mais les derniers, ils posent souvent des problèmes aux premiers. Donc franchement, ça fait vraiment plaisir.
Merci, Alexandre. Salé,
bah, comme je l'ai dit il y a 2 semaines, le titre là, il joue à 3 équipes. Il y a un gros suspense, ça continue et là, aucune des équipes n'a le droit à l'erreur parce que une petite erreur, ça peut changer toute la donne. Et là, ça va tout droit. On est sur la deuxième partie de saison et comme je l'ai dit, moi, je pense que l'FC Barcelone sera le favori final, je pense, c'est mon avis. Mais comme il a dit Alexandre, faut pas enterrer Bilbao qui sont en train de titiller, qui ont fini ce week-end à 7-1. Voilà, ça reste costaud, c'est rien n'est fini, rien n'est fait, voilà, tout le monde est sous pression et personne n'a droit à l'erreur et c'est passionnant.
Merci Salé. Lucas ?
Moi, je retiens surtout l'Atlético Madrid aussi, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment l'équipe qui va embêter tout le monde cette année. Même si je continue à dire que je vois le Barça champion, j'ai l'impression que l'Atlético Madrid, partout où ils vont, ils embêtent leurs adversaires. Et je pense qu'ils ont un coup à jouer, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Ça m'a fait de la peine de les voir battre Valence ce week-end, mais vraiment, gros niveau. Et ils laissent, ça reste une équipe défensive, mais j'ai l'impression qu'ils laissent moins de chance à leurs adversaires. parce que le collectif est mieux
rodé. Ils sont cliniques aussi.
Exactement. Les occasions, ils doivent les mettre, exactement. Ils doivent les mettre. Donc ça veut dire qu'après, ils sont plus relâchés dans leur jeu. Ils ont plus d'occasions de contre, etc. Parce qu'ils ont déjà marqué. Et j'ai l'impression qu'en fait, eux aussi, avec leurs résultats un peu à l'arraché contre Barcelone en championnat ou contre Paris en Ligue des Champions, ça les a mis en confiance sur leur plan de jeu, sur leurs idées. Et que là, ils y vont à fond. J'ai l'impression que Simeone a 11 soldats prêts à sacrifier pour lui sur le terrain, comme dans ses meilleures années. Et c'est pour ça que je vois l'Atlético Madrid embêter tout le monde jusqu'au bout, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. Voilà.
Et puis le focus médiatique va être mis à fond sur Real Barça tous les week-ends, tous les week-ends. Donc beaucoup de pression sur ces matchs-là. L'Atlético, ils vont faire leur chemin sans trop qu'on les calcule. Et à la fin,
je comprends.
Bien sûr. Quand tu vois mais je veux dire, ça peut les servir eux aussi d'être à la fin un petit peu dans l'ombre et de.
Et, attention, hein, pour l'instant, on a pu voir le Barça prendre les devants à 7 points devant le Real. Le Real prendre les devants ensuite à 7 points devant. 7 points au moins. 7 points devant le Barça aussi. Et là, Atlético de Madrid qui n'ont pas eu ce moment-là. Mmh. Attention, si les deux clubs sont dans le jeu.
Ils seront jamais à plus 7. Eux, ils peuvent être à plus 1, ça suffit.
Bah, attendez, mais attendez, si Atlético sort face au Real, ils pourront se concentrer pleinement sur la Liga. Ça aussi, ça pourrait être un atout.
Bien sûr. Et inversement, si le Real sort sur Atlético.
Inversement aussi, bien évidemment. Mais attention. Voilà, en tout cas, merci pour cette soirée. Merci Maxence, merci Lucas, merci Salé, merci Alexandre, merci à Jason à la technique. Et on se dit à très bientôt. Bonne soirée à vous, prenez soin de vous. Et on se dit à très bientôt.
Bonne soirée. Corruption. Ciao.